Et bonjour à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron, le podcast de l'immobilier de la liberté, des gros billets, je pète la forme. Et je vais essayer de faire une intro super courte parce que l'épisode il est méga long. Et oui, une fois n'est pas coutume, on a un invité qui avait beaucoup de choses à nous raconter. Donc dans cet épisode passionnant, bien entendu, on va accueillir Faker, un personnage haut en couleur. Faker, j'ai eu la chance de le rencontrer au bar de l'hôtel lorsque j'étais au salon de l'investissement à Bordeaux. Ça date maintenant, c'était en septembre 2022. Mais voilà, on avait pas mal discuté et ensuite on s'était dit on va faire un podcast ensemble. Il s'avère qu'on l'a enregistré, c'était avant que je parte à Rio. Je pense que vous avez eu assez des podcasts physiques, vous le savez, les podcasts physiques, je vous l'ai dit, le son n'est pas toujours incroyable. Là c'est bon, on a enregistré à distance, le son est bon. Faker, il a plein de choses à nous raconter, donc il a été plombier, maître d'œuvre. Maintenant il s'est lancé à fond dans son business, il est chasseur immo, vous allez voir, il a plein de projets. On va parler de procès qu'il a eu, on va parler équilibre vie familiale, travail, sport, loisirs. Il est aussi pilote depuis peu. Voilà, c'est un échange des plus instructifs que j'ai adoré faire avec Faker. Vous allez le retrouver juste avant. Je vais vous donner quelques infos parce que bien sûr, c'est indispensable. Pour ceux qui nous rejoindraient, je suis Bye Bye Patron, multi-investisseur. Et aussi, j'ai deux passions dans la vie, les gros billets et les gros billets d'avion pour voyager. Donc, mon objectif, c'est de voyager dans au moins 10 pays par an. Cette année, j'ai déjà fait 3 pays d'Amérique du Sud, j'étais au Portugal, là je vais partir à Istanbul. Voilà, découvrir un peu du pays, parce que depuis ces dernières années, c'était pas toujours évident. Donc voilà, on fait au mieux. Donc dans ce podcast, il y a de temps en temps, je fais des épisodes tout seul, et sinon, vous avez des invités qui sont interviewés, des entrepreneurs, des investisseurs, et parfois même des sportifs ou des personnes au parcours atypique. Voilà, si vous voulez en savoir plus sur moi, j'ai un épisode, il est dans le top 3 de mes épisodes les plus écoutés du 28 décembre 2022, 1 million, comment j'ai fait pour investir 1 million d'euros d'immobilier en 2022. Et si vous voulez m'appeler, savoir comment je fais pour négocier des biens immobiliers, et depuis aujourd'hui, vous avez en version définitive la formation sur comment transformer sa vie grâce au podcast, comment lancer un podcast. Et oui, le podcast, ça a bien changé ma vie. Elle était déjà assez cool avant, mais maintenant, elle est encore plus cool grâce à vous. Merci à tous. Et on est bientôt 6000 sur Instagram. Tiens, c'est un petit appel. Si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, n'hésitez pas. Et il y a un jeu concours jusqu'à vendredi. Ça va être le 7 avril. Jusqu'à vendredi 7 avril, si vous partagez en story... si vous partagez en story un de mes épisodes, et notamment si vous êtes en train de faire un truc, vous prenez une photo, vous êtes en train de promener votre chien, ou faire du sport, ou que sais-je, vous occupez des enfants ou en vacances, vous prenez une photo, vous êtes en train d'écouter Bye Bye Patron, vous me taguez, vous ferez partie d'un tirage au sort pour gagner un de mes deux livres, un livre sur comment débuter l'investissement immobilier ou un autre sur la négociation immobilière. Et sinon, qu'est-ce que je pouvais vous dire d'autre? Si vous allez sur mon site grosbillet.com, vous pouvez me poser des questions, vous pouvez aussi programmer un appel. Mais sinon, voilà, pourquoi est-ce que je suis excité? Il est 19h54, mardi 4 avril, et dans 6 minutes, il va y avoir l'ouverture des tickets pour notre week-end IMO Club Invest, donc avec mon associé Michel. C'est plutôt lui d'ailleurs qui a organisé quasiment tout. On organise un événement du 18 au 20 août à Chamonix. On a eu pas mal de personnes qui nous avaient dit qu'elles étaient intéressées. Voilà, les tickets, ils sont disponibles. Ils seront disponibles quand vous l'écouterez. Je pense que les lits simples, ils vont partir super vite. Voilà, on a pris plusieurs. Si vous n'avez pas écouté l'épisode de la semaine dernière, on a pris plusieurs chalets. Dans les chalets, il y a des lits simples, il y a des lits doubles. En général, les investisseurs immo, ils viennent plutôt seuls. Donc, les lits simples, je suis sûr que si vous regardez à l'instant T, il n'y en aura plus. Les lits doubles, je ne sais pas du tout à quel point ils vont partir. Si vous voulez absolument participer à l'événement, qu'il n'y a plus de lits simples et que vous êtes tout seul, comment vous faites? Si vous êtes d'accord de partager un lit double, on peut vous mettre en contact avec quelqu'un d'autre qui est d'accord de partager un lit double. Bien sûr, on vous fera communiquer avant, peut-être vous appeler. Si ça match entre vous, boum, vous prenez vos tickets lit double. Voilà. Nous, on n'a pas le choix des lits forcément. Sinon, si vous voulez absolument un lit simple, ce que je peux comprendre, vous pouvez m'envoyer un email à info@clubinvest.fr. ou info@babypatron.net. Vous aurez tous les liens, les notes, mon mail dans la description. Donc, si vous n'avez pas ce que vous voulez, vous pouvez m'envoyer un email à info@babypatron.net ou info@clubinvest. Le 1, c'est un 1, c'est le chiffre, hein, le chiffre romain. .fr. Donc c'est donc info@club1 le chiffre romain vest.fr. Et on va trouver on va essayer de trouver une solution, soit il restera des lits, soit on prendra peut-être un autre logement, c'est pas sûr hein, parce que bon, on a prévu 20 personnes. 20 personnes, c'est beaucoup à gérer. Nous on fait ça, c'est un événement qu'on fait voilà, sans gagner d'argent, c'est vraiment pour qu'on se retrouve tous et qu'on passe un bon moment. Donc voilà, on va bien s'amuser, c'est ça un peu, c'est de là que vient cette excitation. Je pense qu'on a fait un bon tour des sujets que je voulais aborder. Donc formation podcast, si vous voulez savoir comment lancer votre podcast, elle est dispo. Vous pouvez prendre vos tickets pour le week-end du Club Invest. Et ah, si j'ai un dernier point, appel à candidature. Si on a un projet avec Michel, ce serait, je peux pas tout vous dévoiler sur le podcast, mais si vous avez, en fait, ce serait de faire intervenir des personnes qui ont, il y en a plein, hein, des investisseurs parmi vous, des auditeurs, je suis sûr, mais qui ont une compétence spéciale, et ce serait pour les faire investir, enfin, une compétence spéciale, ça peut être, je veux dire, ce serait pas l'idée de faire un podcast sur toute la vie, toute l'expérience d'une personne, mais ça peut être, par exemple, vous avez des compétences. Vous êtes artisan, vous avez des compétences, vous êtes banquier, vous savez comment présenter des dossiers bancaires, vous êtes entrepreneur, vous avez développé certains points précis. On va plutôt faire tout ce qui est autour de l'immobilier. Vous êtes peintre, comment choisir une peinture, combien de sous-couches faire, combien de couches faire. Vous êtes vous êtes investisseur, vous avez déjà fait des divisions officielles, vous avez une compétence particulière dans la pose de carrelage, dans la pose de parquet, dans les colocations, les locations courtes durées, vous êtes super haute sur Airbnb, vous avez des logements qui cartonnent, vous avez des colocations qui cartonnent, vous avez des logements meublés qui cartonnent, vous êtes expert comptable. Voilà, si vraiment tout ce qui touche autour de l'immobilier, vous avez une compétence qui s'est basée sur l'expérience, ça nous intéresse. Prenez contact avec moi, Instagram, byebyepatron, info@byebyepatron.net. On a quelque chose à vous proposer. Donc voilà, c'est pas sur toute votre expérience, c'est sur donc pas sur si vous avez acheté 10 lots, on va décrire vos 10 lots, c'est comment j'ai financé ça, comment j'ai rénové ça, comment j'ai pu négocier ça, comment j'ai trouvé ce bien. Je suis agent immobilier, si vous êtes agent immobilier, vous avez plein de compétences qui pourraient nous être utiles. Voilà. Contactez-nous et on aura un bon petit projet à vous proposer. On attaque tout de suite le podcast avec Fakir. J'ai été ravi de le faire. Et puis j'ai des bons épisodes d'avance, comment être lassé de voyager autour du monde et acheter un immeuble de 16 appartements, comment lancer le plus gros réseau de marchands de biens, un très gros réseau de marchands de biens, et aussi des épisodes un tout petit peu en dehors de l'IMO. Je vais avoir un épisode business physique et IMO et un épisode un peu épargne, gestion financière, finances perso. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Pour vous, ce sera le mercredi matin, j'espère que vous écouterez. Il y aura sûrement encore peut-être des places dans les lits doubles. Si vous avez un amoureux ou un coloc qui est fan d'immobilier, ça peut jouer en votre faveur si vous voulez encore des places. Voilà, je vous souhaite une très bonne écoute et on se retrouve avec Fakir. Hop, je suis de bonne humeur, je vous mets un petit nouveau jingle. Et bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron. Il est 20h37 et je sais pas si je peux considérer que c'est du travail, mais en tout cas notre invité en la personne de Fakir est à son bureau pour ce nouvel épisode de Bye Bye Patron. Comment est-ce que ça va en ce lundi soir?
Salut Thibaut, écoute, déjà merci de me recevoir sur ton podcast, c'est super cool. Ça va, tu vois, il y a du travail, je me plains pas, tout va bien. Voilà, j'ai repris le sport depuis un mois et demi, j'ai perdu 5 kilos, je me sens bien.
Eh ben, top, top. C'est vrai que quand, au bout d'un mois et demi, on commence à voir les résultats et tout, et non seulement tu perds un peu, et en plus, tu es un peu plus tonique, ou je sais pas comment dire, c'est vrai que
c'est exactement ça. C'est exactement ça. Je me suis dit la même chose ce matin. Tu sais, tu te tiens plus droit, tu es plus en forme, tu marches plus vite, tu galères moins dans les escaliers. Okay. Tu vois, c'est carrément plaisant.
Eh ben top, bah donc Fakir et moi on s'est rencontrés un peu de façon fortuite dans un bar d'un hôtel plus précisément à Bordeaux au salon de l'investissement. Et je pense que c'est une des rares personnes qui m'a payé un coup à boire, surtout que je connaissais pas. Donc
personne t'a payé un coup là-bas.
J'ai eu la chance, si après j'avoue les auditeurs du podcast ils m'invitent souvent, notamment que j'étais à Zurich, hein, j'ai un auditeur qui m'a invité à déjeuner, j'étais bien content vu les tarifs zurichois. On s'est rencontrés, t'as plein de casquettes, t'as été plombier, maître d'œuvre, maintenant t'es entrepreneur, t'as plein d'activités. On va faire le tour ensemble, donc je te laisse te présenter. Et puis pour démarrer, j'aime bien que les invités racontent une expérience insolite. Et nul doute que quand t'es plombier, il t'en arrive, hein, dans l'imaginaire collectif en tout cas.
Ouais, carrément. moi, je pour me représenter, moi c'est Fakir, j'ai 31 ans. Bientôt 32, paxé avec ma compagne, deux enfants, mon plus petit a 1 an d'ailleurs, demain. Donc voilà, papa avant tout. Et investisseur immobilier, entrepreneur, de l'immobilier aussi en partie, et aussi dans les travaux, dans la partie travaux. Donc c'est deux casquettes principales que j'ai. En plus d'opérations immobilières que je fais à côté. J'aime bien le sport. Je fais du crossfit depuis 1 an. J'essaie de courir depuis 1 mois et demi. C'est pour ça que j'ai perdu du poids.
Quel rythme? Combien de kilomètres?
Trois fois par semaine, à peu près entre 5 et 10 kilomètres.
Ok. Et à quelle vitesse?
Ma perf, c'est 5 au kilomètre.
Ah ouais, ouais c'est pas mal. Hein. Pas mal du tout.
Ouais, c'est pas mal.
Et il y en a qui courent plus vite que ça, hein. Romain et
Vince
Audacieux là, ouais, il y en a qui me taguent, ouais, je t'écoute pendant l'épisode, je fais un petit 20 km ou 25.
Ah ouais, ok. donc c'est à peu près ça.
Super, on a plein de choses à se dire. T'as une anecdote à nous raconter de ta vie de plombier?
Oui. C'était sur une colonne d'Ovan. Donc les Ovan, c'est ce que c'est.
C'est vraiment les Ovan, c'est pas de l'eau pure quoi. Hein.
C'est pas celle qui coule du robinet, on va dire, ni celle du lave-vaisselle. C'est celle des toilettes avec tout ce qui va avec. Et donc, on m'appelle pour un. J'étais dans mes premières années en plus de plombier. Je crois que je devais avoir. Je dois avoir 19 ans, je crois, un truc comme ça. Il y a déjà un peu plus de 10 ans. Un gros bouchon sur une colonne d'Ovan où il n'y avait que des toilettes branchées dessus. Le plombier précédent avait bien fait son travail, donc il avait mis un thé de visite. Et donc, j'ouvre ce thé de visite, je vois rien, voilà, rien de spécial. La canalisation, c'était presque neuve.
C'est une trappe, ce que tu appelles. C'est une trappe.
C'est ça, une trappe, un thé de visite que tu débouches. Pour passer un furet en fait. Et donc du coup, je passe mon furet pour regarder s'il n'y a pas quelque chose qui bloque et puis je mets mon furet et là tout tombe et je me reçois tout, j'ai pris une douche.
Une douche de purin,
la fausse purin. Prosper le purineur, je sais pas si tu le voyais dans les visiteurs. Non, ça
ouais. Ouais, si je vois.
Ah, j'avais à peu près la même gueule à la fin, tu vois. Et je te dis, j'ai mis 4 jours à me débarrasser de l'odeur sur
moi. Ah, ouais. Je vais bien le croire.
C'était l'horreur. Et du coup, je me suis dit, je vais pas faire ça toute ma life.
et pour en revenir, tu sais, ça m'intéresse dans.
Ouais.
Dans un immeuble, il y a combien de conduites d'eau, enfin différentes?
En principe, tu en as 3. Tu as les pluviales, les eaux vannes et les eaux usées. Donc les eaux vannes, les toilettes, les eaux pluviales, donc de pluie, et les eaux usées, donc de douche, lavabo, lave-vaisselle, machine à laver. En principe, okay. Si tu veux bien faire le boulot, eh ben, faut que tu dissocies ces 3 eaux-là. Au final, les eaux usées et les eaux vannes vont quand même tous dans la fosse septique ou tout à l'égout. Et les eaux pluviales directement, à l'égout, dans la rue plutôt, dans le réseau d'eau pluviale.
À l'extérieur, en fait, c'est à l'extérieur.
Voilà, c'est ça. Okay. Donc voilà, si tu veux bien faire les choses, c'est que ton diagnostic, tu veux qu'il soit correct, eh ben, faut faire ça. Voilà.
Et c'est vrai que moi, j'ai pas de maison, et les eaux pluviales, ça rentre dans le diagnostic. Je l'ai vu dans un diagnostic déjà.
Ouais.
Je sais plus dans.
En fait, cette partie-là, tu l'as dans le diag, c'est que, bah, en fait, si le diagnostiqueur fait bien son taf, eh ben, en fait, il met des, tu sais, des petites poudres de couleur pour repérer.
Ah ouais, ce qui sort, ce qui rentre où, ce qui sort où.
C'est ça, ouais, c'est ça. Et donc, voilà, s'il voit que les eaux vannes sont confondues avec les eaux usées, bah, ça peut. C'est pas un problème majeur, mais c'est pas dans les normes, si tu veux. Voilà, c'est pas.
Ok. Et ça, c'est dans quel diagnostic que tu as ça?
Dans le diag, enfin, moi, enfin, dans tous mes diags, j'ai eu ça. Je sais pas toi, mais. Okay. Dans les diags, à partir du moment où tu achètes une habitation, tu as ce diagnostic-là.
Mais je pense que tu ne l'as pas dans les appartements, tu l'as que dans les maisons. Je pense que c'est un diagnostic spécifique au.
Oui, certainement. Certainement, je sais pas. Mais, mais ouais, c'est un. Enfin, tu sais, c'est lié à l'assainissement, quoi, en gros.
Ok, ouais, c'est ça. Ok. Et petite question plomberie. Du coup. Du coup, quand on achète, est-ce que quand on achète un appartement, on peut voir quelque chose? Pas grand chose, non? Par rapport à la plomberie. À quoi il faut prêter attention?
À quoi il faut prêter attention? En plomberie, bah, c'est assez compliqué parce que.
Souvent, c'est caché. Souvent, les évacuations, ouais, tu les vois pas.
Ouais, voilà. Après, faut. Bon, ce qui peut t'alerter en plomberie aujourd'hui. Enfin, moi, de ce que je vois des dernières visites que j'ai faites, il n'y a pas plus tard que deux semaines, eh ben, ce qui m'alerte, bah, c'est comment les tuyaux sont passés en apparent, parce que tu en as toujours certains.
Mmh.
Et tu vois, ça t'en dit un peu long sur, tu vois, si tu as des tuyaux qui sont mis un peu n'importe comment, ça peut t'en dire un petit peu long sur l'installation. Ça ne veut pas dire qu'elle fuit ou ça ne veut pas dire qu'elle est mal faite, mais c'est ce qui peut t'alerter un petit peu. Et les ballons. Tu vois, les ballons cylindriques, là, je recommande à personne de mettre ça parce que c'est énergivore. Et ça ne fait pas remonter tes lettres dans le DPE si tu veux être dans les règles aujourd'hui.
Mmh.
Donc, il vaut mieux partir sur un ballon, tu sais, extra plat.
Mais il faut le poser à la verticale, hein, c'est ça, hein, je crois. Si tu poses à l'horizontale, ça peut.
Tu peux en mettre à l'horizontale. T'en as que tu peux mettre à l'horizontale, l'extra plat. Et après, il faut bien regarder dans la notice technique.
C'est ça. Mais pour le DPE, je sais que ça change. Enfin, en tout cas, j'avais entendu que ça
change. Ouais, ouais, ça change en bien. Parce que si je ne me trompe pas, les derniers que j'ai installés. Ils sont en B, donc si tu veux, ça te fait remonter à une, ça peut te faire remonter d'une lettre comparé à ceux que tu vois d'habitude les cylindriques, les gros, en plus qui prennent beaucoup de place, c'est moche. Mmh. Et en fait, ils chauffent constamment ceux-là, donc forcément c'est plus énergivore, pardon.
Ok. Et combien il faut dimensionner de, combien tu conseilles de dimensionner de les ballons? Donc, c'est quoi, 70 litres pour un studio? On dit ça?
Ouais, en principe, tu comptes entre 5, on va dire entre 50 et 100 litres par personne.
Ouais.
Ok. Ah, donc on parle sur un ballon cylindrique, hein, sur un ballon à l'ancienne. Alors que si tu prends les ballons, les nouveaux ballons, tu sais, extra plat, ils chauffent très, très vite.
Ok.
Et sur des petites plages horaires. Donc, tu peux, c'est pas la même, c'est pas le même. Il me semble que pour 4 personnes, tu peux mettre à 80 litres sur okay. Mais ça chauffe super vite derrière, donc voilà.
Ben, intéressant. Et tu conseillerais, si on a des travaux de plomberie, depuis que moi j'ai refait une salle de bain récemment, enfin refaire, ouais. Et la question, mon artisan, il posait la question, il y avait des tuyaux qui étaient en cuivre, il me disait, ouais. Écoutez, vu qu'on va refaire la douche par-dessus et tout ça, vaut mieux les changer, ce que j'ai fait. Pardon, ouais. Ils sont en quoi, en PVC maintenant les tuyaux, enfin le rouge et le bleu.
Bah,
là,
le rouge et bleu, ouais, c'est du, ce qu'on appelle du PER, c'est du plastique. Hein,
ok. PER. Plastique
certifié, okay. certifié sanitaire, c'est-à-dire que tu peux faire passer de l'eau potable dedans. Ou tu as du multicouche, tu vois le tuyau blanc là avec que tu certis, qui est un petit peu plus haut en qualité, qui coûte un petit peu plus cher, mais qui dure plus dans le temps, voilà, et qui est moins fragile aussi.
Okay.
Mais oui, il vaut mieux si t'as des cuivres, si t'as des tuyaux en cuivre qui sont là depuis un certain temps, mieux que tu les changes, c'est plus sûr. Et okay. Puis c'est corrosé avec le temps, ça, c'est une durée de vie, hein, voilà.
Et quand ça goûte, le problème c'est qu'on on le voit pas immédiatement, quoi. C'est ça peut être ça peut
être très long. Si t'as un suintement dans ton sol ou dans une cloison que tu vois pas, ça. Même si c'est un suintement, au bout d'un an, tu peux avoir une grosse tache d'humidité et ça peut être problématique.
Et après, il faut la détecter. Il faut détecter d'où ça vient. Ça peut être compliqué.
Ouais.
Ok, donc ce métier de plombier, tu l'as exercé à 18 ans, je suppose?
Alors, ouais, parce qu'en fait, moi, j'ai commencé, ce qui est marrant, avec un BEP, vente.
Ok.
Parce que ma mère voulait pas que je fasse plombier.
Ok.
Et moi, je voulais faire ça avant, en fait. Et donc, j'ai fait un BEP vente. Après, du coup, j'ai arrêté mon BEP vente. Je l'ai eu, mais c'est pas ce qui m'a plu. Et donc, du coup, j'ai refait un CAP plomberie derrière et je suis allé chez les Compagnons du Devoir. Je sais pas si tu connais, j'ai fait ça et j'ai tourné pendant 6 ans dans 6 villes différentes.
Okay.
Et je passais mes diplômes en candidat libre en cours du soir.
Donc, j'ai passé compagnon, c'est quoi? C'est un artisan qui est compagnon?
Non, en fait, c'est une école. Enfin, c'est une espèce d'association,
okay,
mais qui est une école ouvrière.
Et le but, c'est de tout le monde bouge, hein, je pense, tous les compagnons.
Ouais, c'est ça. En fait, tu as plusieurs maisons de compagnons de France dans presque toutes les villes de France.
Okay.
Et en fait, tu as tous les métiers du bâtiment et c'est un peu l'excellence, entre guillemets, de l'école du métier du bâtiment parce que bah, voilà, tu travailles beaucoup et comment dire, c'est un peu militaire. Tu travailles la journée, le soir, tu es en cours de 20h jusqu'à 22h, 22h30. Le samedi aussi, t'as que le dimanche de libre et encore des fois le dimanche je travaillais aussi. Et en fait, je passais tous mes diplômes en candidat libre, donc j'ai fait CAP, brevet professionnel et BTS en cours du soir.
Ok.
Ouais.
C'était pas BTS plomberie, je pense. Après, c'est un autre nom.
Ça s'appelle pas comme ça. C'est qu'en fait, t'as un CAP plomberie, un BP génie climatique, donc c'est un petit peu plus poussé. Tu vas un peu plus dans la technique. Et le BTS, tu vas vraiment là dans des calculs de fluide. L'aérolique, c'est le traitement de l'air. Voilà, c'est vraiment quelque chose de plus poussé pour travailler dans des bureaux d'études. Okay. Voilà.
Et les clims aussi, tu installes des climatisations ou pas?
Et la clim aussi, ouais, okay. Ouais, j'ai fait ça.
Tu vois. Okay. Ouais, bah, tu vois, moi, mon associé, il a fait une école de commerce. Hein. C'est surtout très bien. On se connaissait depuis le lycée. On s'est bien entendu à l'UT. Et après, il a fait une école de commerce. Bon, c'est un peu perdu de vue, revu et tout ça. Et puis finalement, quand il a fini, il est parti à Hong Kong. Et 2 ans après, je crois, enfin, ou 1 an après, il est reparti en CAP plomberie. Donc, il a un bac plus. Ouais, ouais. Et puis maintenant, il est plombier. Enfin, en tout cas, il a la formation plombier chauffagiste, quoi. Qu'il a un bac plus 5, plus bac moins 2. Enfin, je sais pas si ça. Mais quand le premier jour, là, quand tout le monde devait se présenter, il avait 10 ans de plus que tout le monde.
Et puis, c'est marrant ce que tu dis parce que quand j'ai passé mon BP, il y avait des gars qui venaient passer en candidat libre et il y avait un gendarme, un ancien gendarme, il y avait des gars qui venaient de faire des bacs en psycho et qui se reconvertissaient là-dedans. Mmh. Alors, tu vois, je pense qu'il n'y a pas de règle après. Hein,
Bien sûr. Ouais.
Donc voilà. J'ai fait ça. J'ai fait ça donc de mes 17 ans à peu près, 18 ans, jusqu'à mes 24 ans.
Ok.
Jusqu'à mes 23 ans. Et après, de mes 23 ans à mes 25 ans, j'étais conducteur de travaux. Donc je voulais passer à autre chose. Je voulais apprendre. J'ai toujours été assez ambitieux dans ce que je voulais et dans ce que je faisais, pardon. Et donc voilà, j'ai voulu passer au niveau supérieur et gérer un petit peu ces chantiers-là. Donc okay. j'ai fait ça pendant 2 ans. J'étais conducteur de travaux pendant 2 ans.
Mais comment on passe de l'un à l'autre? La partie plomberie tu gérais. Après, t'avais passé pas mal de temps sur les chantiers, donc t'avais quand même.
L'apprentissage. Après, j'ai vite été lâché sur le chantier parce que j'ai toujours voulu reprendre des responsabilités. Donc voilà, on m'a vite donné des chantiers petit à petit où je les gérais tout seul. Hein. J'avais mon camion, mes outils, j'allais chez le fournisseur chercher mon matos. Enfin, voilà, je gérais tout ça. Et après, j'avais une équipe de 3 personnes. Donc on était tous les 4 sur le chantier à faire avancer les choses. Et après, voilà, donc si tu veux, c'est plus dans le sens où j'avais pas évolué en interne dans la boîte, mais j'avais évolué en changeant de boîte. C'est plus facile, on va dire, d'évoluer comme ça que dans la même boîte.
Bien sûr.
Tu vois, par exemple, tu es dans une boîte, ben voilà, tu veux passer chef de chantier, tu vas dans une autre boîte, tu postules à un poste de chef de chantier, après tu rechanges pour être conducteur de travaux. Donc ouais, ça c'est intéressant, c'est une chose intéressante à savoir, c'est que c'est plus facile d'évoluer quand tu changes de boîte.
C'est ça, c'est très intéressant ce que tu dis. C'est vrai que moi, j'ai eu... clairement, j'ai été trois ans, alors que ça n'a rien à voir auditeur financier. Et après, bon, c'est un métier où les gens restent pas longtemps, en tout cas pas la plupart. Et après, quand j'ai changé de métier, J'avais quasiment doublé mon salaire. Enfin, j'avais gagné, ouais. J'avais gagné, enfin, très vite, quasiment le double. Alors que si j'avais, enfin, il m'aurait fallu au moins 5 ou 6 ans pour atteindre le même niveau de salaire que j'avais eu en changeant. Et puis, c'est ça, t'as 1 million d'opportunités. T'as des gens, ouais, qui ont besoin de toi, alors que toi, ton boulot, de toute façon, tant que tu fais le, t'as plein de gens, ils disent, ouais, je fais bien mon travail et mon patron, il m'augmente pas. Mais ton patron, si tu fais bien le travail au salaire qu'il te donne, bon, il peut de temps en temps un peu te remercier, mais en gros, t'es pas sa priorité quand il se lève le matin, quoi. Lui, il voit qu'il est... Alors que s'il te manque typiquement un chef de chantier, bah là, tu vas être, ouais, prêt à...
Ouais, exactement. Ça dépend du modèle de la boîte dans laquelle t'es, ça dépend de plein de choses, ouais. Mais en tout cas, avec du recul, c'est vrai que je remarque qu'on, même dans plein de métiers, hein, d'ailleurs, hein, c'est, tu t'évolues mieux quand tu changes de boîte comme ça, quoi. Quand tu changes de boîte, t'évolues mieux, ouais, exactement.
Et puis parfois tu peux avoir un supérieur qui t'a pas trop qui t'a dans le viseur et ça peut te plomber, ouais, une carrière, ouais, surtout si c'est fait un peu sournoisement, tu vois. Si encore le gars s'est affiché, bon bah tu sais, au bout d'un moment tu dois te casser, t'auras rien. Mais parfois il y en a, c'est un peu plus
c'est intéressant ce que tu dis, parce que moi j'avais quand j'étais vraiment dans mes premières années où j'étais plombier chauffagiste, vraiment j'étais pas chef de chantier, et ben le chef de chantier voyez que je prenais des responsabilités, donc il y a des fois, tu sais, ça, cette sorte de jalousie un peu, où les gars, ils ont peur que tu prennes leur place, tu vois. Et du coup, bah, en fait, c'est pas lui qui va aller dire à ton boss, putain, l'autre, il bosse bien, faudra le faire évoluer, tu vois.
Ouais, c'est vrai.
Ça, à plusieurs échelles dans la boîte. Donc, ouais, c'est. Donc, j'ai bien fait de.
Tu peux toujours te poser la question de qui a intérêt à quoi et même dans ta vie personnelle, hein, ça peut être utile de parfois se poser la question, bah, de sortir de ton prisme et d'aller un peu dans les chaussures de l'autre, de voir. Et quand tu négocies, c'est hyper important avec un artisan, avec n'importe quoi, faut que lui, il ait plus à perdre que toi, t'es à perdre dans l'inaction, ouais, tu vois, hein, c'est un peu ça.
C'est ça.
Ok, top. Donc, la vie de conducteur de travaux. Donc, c'est quoi la différence entre un chef de chantier et un conducteur de travaux?
Un chef de chantier, t'es sur le chantier.
Ok.
T'es toujours plombier, mais t'es quand même plus dans la préparation. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il va falloir comme matériel la semaine prochaine pour avancer, les implantations, enfin tu vois, enfin la gestion avec les autres corps de métier. Je te parle d'un gros chantier là. Voilà, c'est plus ça, quoi. C'est plus ça, et puis et s'il y a un apprenti, tu dois le former. Enfin tu vois, c'est plus ce genre de choses. Donc tu travailles, t'es un peu moins sur le terrain, on va dire.
Ok. Et sur un chantier, tu peux nous dire dans quel ordre les différents corps de métier, ils interviennent? Donc au début, terrassement, je pense que c'est la base. Ouais. Ensuite, ouais. Gros œuvre.
T'as le terrassement. On va dire, la viabilisation, le terrassement. Le terrassement, dans le terrassement, tu vas souvent avoir déjà les réservations où il y a déjà le plombier qui va intervenir pour passer ses évacuations au sol, enfin voilà tout ça, pour le tout à l'égout, alors le tout à la si tu amènes ça dans une microstation, tout ça. Ensuite tu as le gros œuvre, le maçon qui va venir, qui va monter ses murs, tout ça. Ensuite ça va souvent être hors d'eau assez rapidement, donc il y a la charpente qui va venir, la toiture qui vient après hors d'air, donc le mec va venir installer ses fenêtres. Et puis à partir de là, bah, je te parle d'une maison basique, hein, et après le second œuf qui intervient, le plombier, l'électricien, le placo, qui vont travailler ensemble jusqu'au bout, quoi.
Et les trois, ils travaillent en. Bah, le placo, c'est plutôt la fin, quoi. Non.
Ouais, enfin, c'est-à-dire, admettons que t'as tes quatre murs, t'as ta toiture, voilà, t'as ton plancher ou pas, voilà. T'as ta plaquiste qui va venir, qui va commencer à railler, ou du moins mettre ses implantations de cloison au sol. Okay. Le plombier va dire, bah voilà, à cet endroit-là, il y a à peu près, on va dire à peu près, quand tu tombes en dessous de la cuisine, on va dire que c'est à peu près comme ça. Là, tu traces, en principe, tu as déjà tes tuyaux qui sont là, qui sont arrivés. Et donc le plaquiste va commencer à railler. Et dans le placo, enfin dans les rails, on va déjà commencer à passer nos tuyaux derrière les rails contre le mur. L'électricien aussi, une fois qu'il y a tous les raillages, l'électricien va passer toutes ses gaines, va passer ses fils ensuite dans les gaines. Et puis après, voilà, c'est vraiment un travail, c'est important en fait, que les corps de métier s'entendent bien entre eux, si c'est plusieurs artisans,
société ou artisans,
plusieurs sociétés, ouais. Et parce que c'est vraiment, comment dire, un travail de coordination entre eux. Parce qu'il ne faut pas que le plaquiste ferme avant que l'autre ait passé ses tuyaux ou son électricité. Y a, tout le monde a déjà eu le cas. Hein, c'est récurrent. Mais ouais, c'est le plaquiste, principalement l'électricien et le plombier qui vont beaucoup travailler ensemble. Mmh. Ah, pardon. Après, ça va être de la finition, on va dire.
Mmh. Okay.
Les sols, les peintures. Après, les plombiers, en général, quand tout ça est fait, ils partent, ils reviennent mettre. Les appareillages sanitaires, la robinetterie, l'électricien, pardon, va mettre ses petits spots et machin. Enfin, ça va plus être de la finition à la fin, quoi. Donc ouais, une vie de chantier, ça s'organise, ça se planifie. Et puis c'est surtout, en fait, faut que tout le monde s'entende bien là-dessus et que ça communique, quoi.
Mmh. Ok. Et donc là, t'étais conducteur de travaux, mais que dans la partie plomberie ou tous les travaux alors?
Alors non, après j'ai changé. En fait, j'étais conducteur de travaux, mais vraiment. Tout corps d'État, donc en fait, tout corps d'État, on va dire de la petite maçonnerie, pas sur de la grosse maçonnerie, mais plus sur le gros, par contre, sur le gros œuvre, j'y étais pleinement. Donc, tout ce que je viens de te dire juste avant, en fait, je coordonnais tout ça, quoi.
Ok.
Je coordonnais tout ça et en fait, je faisais, comment dire, là, j'étais entre le bureau d'études qui, eux, faisaient les plans et moi, je veillais à ce que ça se passe bien comme sur le plan, sur le chantier. Je coordonnais les équipes sur place, les différents corps de métier. Et derrière ça, voilà, tenir le timing, apporter le matos quand il en manque. Aussi un peu de négo avec les fournisseurs de matos. Enfin, voilà, un petit peu. C'est un peu le maître d'œuvre, hein, entre guillemets. C'est un peu le maître conducteur de travaux et un peu un maître d'œuvre.
Ok. Et ensuite, donc là, t'avais quoi, 25, 26, 27?
24, 25. À peu près 24, 25 ans.
Ok.
Et après ces 24 ans, je suis quelqu'un, je m'ennuie vite. Hein. Je sais pas si t'as remarqué. Je m'ennuie vite. Donc,
pas encore,
mais en tout cas. Je dis pas que j'apprends, j'ai plus rien à apprendre très très loin de là, c'est pas du tout ça. C'est que moi, je peux faire quelque chose pendant 2 ans à fond, mais après, j'ai envie de peut-être être toujours dans le même domaine, mais faire autre chose dans ce domaine-là. Parce que je suis convaincu que dans chaque domaine, il y a plein de sous-domaines. On peut pas tout, un plombier, il peut pas tout connaître de la plomberie, tout faire de la plomberie. Il y a plein de métiers qui sont associés à ça. Donc, si tu veux, après, j'ai voulu être commercial et vendre le matériel, vraiment tout le matos qu'un plombier peut servir, de la chaudière, de la climatisation. Moi, en l'occurrence, j'étais chez un fabricant de climatisation et de pompe à chaleur. Donc voilà, j'ai travaillé chez eux pendant 3 ans.
T'étais commercial à la com ou comment ça se passait?
T'avais non, déjà j'avais un bon fixe. Hein, j'étais un peu plus de 2000 euros fixe. Et puis après, j'avais des primes qui étaient trimestrielles, des primes qui allaient de 1500 euros à peu près à 2000 balles. Donc voilà, j'avais une voiture de fonction, j'avais une carte à faire, j'allais voir mes clients. Enfin voilà, c'était un bureau, vraiment un boulot de commercial, quoi. Mais bon, j'avais pas un petit fixe, on va dire. Hein. J'avais vraiment un
bon fixe. Ouais,
et puis après.
Après, c'était le bonus, quoi. C'était bien travaillé. C'était pas pour manger, quoi.
Ouais, exactement. Exactement. Okay. Donc, commercial. Et puis, au même moment, c'est là qu'est venu l'investissement IMO. Okay. L'investissement immobilier. J'ai commencé par acheter ma RP, hein, déjà. Donc là, j'ai à peu près 26 ans, à peu près. Ouais, 26. Je suis sur la fin de mon métier de commercial.
D'accord.
Et,
t'es dans quel coin? Parce que t'as fait civil, mais là.
Ouais, en fait, j'ai fait civil. Bon, j'ai commencé par Tours. J'étais à Strasbourg, d'ailleurs, un an, par chez toi. Ensuite, j'étais à La Rochelle. Après, j'étais en Suisse, à Lausanne, pendant un an. Après, j'étais à Nîmes, pendant un an dans le sud. Ensuite, il y a à Toulouse, un an. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, c'est ça. Et j'ai fini à Toulouse. Et donc, à Toulouse, ensuite, voilà, c'était ma dernière année de diplôme. Après, ensuite, je suis retourné chez moi à Bourges. Et puis, bah, j'ai rencontré ma compagne à ce moment-là. Et donc, voilà, ouais, c'est ça. C'est ça, ouais, c'est ça à peu près.
Donc là, achat de RP.
Ouais, achat de RP. Et puis après, bah, là, déjà, l'IMO, ça me trottait dans la tête depuis un moment. Et comment dire, et créer mon entreprise aussi autour de, forcément autour de l'immobilier, ou enfin d'abord avant tout autour des travaux, et l'immobilier c'est venu après. Et en fait, ça m'a, enfin comment dire, dans ma tête, en réel, depuis 12 ans j'entreprends, parce que déjà quand j'avais 14 ans, j'achetais des requins en Chine, je les revendais.
Les requins. Ouais, c'est vrai que je me souvenais plus qu'on pouvait acheter ça, des fausses.
Ouais, c'est ça, les fausses. Ouais, t'avais
C'était quoi? Il y avait des pubs. Comment on tombait là-dessus là sur les.
Alors, moi, j'avais un contact sur MSN qu'on
Ah.
m'avait filé. Je te parle de ça, j'ai 14 ans, 15 ans. Et puis, avec l'argent de poche qu'elle m'avait filé un peu mes parents, ils m'en filaient pas souvent, mais que j'avais gardé, j'achète 2-3 paires de TN à 20 balles en
Donc,
Chine, tu sais,
TN, c'est des
Ouais.
Nike Air Max, enfin, en
Des Nike
général, voilà,
TN.
ceux qui tiennent les murs dans la cité, c'est ce qu'ils ont.
C'est ça. On appelait ça des requins. Enfin, c'était des requins à l'époque. C'est ça. Et
Ouais.
t'en avais des avec des Burberry, c'est des genre
Ah ouais, le
Burberry, mais
logo, ouais, c'était la mode.
tu te souviens ça? Et donc, du coup, j'achetais ça. J'ai acheté 20 balles. Je les revendais 40 ou 50 balles. Bon, je me faisais ma petite marge. Et après, j'avais acheté des fringues, j'avais acheté plein de trucs. Enfin, voilà, il y avait du faux. Enfin, c'était que du faux, hein, d'ailleurs. Il n'y avait pas de.
C'est vrai que j'avais oublié cette époque de. J'avais acheté beaucoup plus tard des Stan
Ouais.
Smith, là, des fausses, mais.
Mais c'était une époque où enfin, tout le monde achetait ce genre de sapin. Et moi, j'étais dans ce moment-là. Et ouais, j'avais chopé un contact MSN, je ne sais plus comment. Et tout se passait sur MSN. Hein. Je
Et tu le
parlais en
payais
anglais.
comment?
Je payais par Western Union. C'était vraiment risqué de malade. Donc, en fait, je retirais la thune en liquide. J'allais à la poste et j'envoyais de la thune en Chine, quoi. Et après, c'était vraiment la roulette, hein.
Ça vient pas.
Ouais, je me suis jamais pris de banane. Donc, j'ai toujours reçu mes trucs et je me suis fait un peu d'argent comme ça. Donc voilà, enfin, je te parle d'entreprendre, mais voilà, j'achetais, revendais des choses. Donc, c'était déjà une espèce de petite sorte d'entrepreneuriat, on va dire.
Moi.
Et après, je m'étais même penché sur le e-commerce plus tard, parce que je me suis dit, bon, je suis capable d'acheter des trucs, de les revendre. Faut faire un site internet. Enfin, et après, plus tard, voilà, j'ai pensé à ça, mais j'ai lâché l'affaire. Pourtant, en fait, à l'époque, il n'y avait pas de formation, il n'y avait pas de formation en ligne, comment vendre en e-commerce, il n'y avait pas tout ça. Donc, voilà, j'ai vite lâché l'affaire et je me suis remis à aller travailler à l'école.
À du vrai
Et puis,
travail.
ouais, c'est ça. Et puis, donc voilà, juste pour te dire que, bah voilà, en fait, ça a toujours été un peu en moi. Et donc, si tu veux, après, à 27 ans, donc j'ai mon fils qui naît, mon premier. Et donc voilà, être papa, ça met quand même une sacrée gifle. Donc là, tu te rends compte que voilà, bah, déjà, enfin, voir une naissance, c'est quand même quelque chose. Après, je sais pas si on est tous sensibles, on n'est peut-être pas tous sensibles pareil à ça, mais moi, ça m'a énormément touché de donner la vie à un petit garçon. Donc j'ai eu ça, et puis après, si tu veux, 4 mois après, je perds mon père. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit, qu'est-ce que tu, enfin, je me suis rendu compte que j'ai connu en peu de temps, j'ai connu une naissance, un décès. Et en fait, dans ma tête, moi, j'étais vraiment, comment dire, je pense vraiment qu'entre 20 ans et 30 ans, dans ta tête, tu vas jamais mourir, en fait. Il y a ce truc où tu te dis, bah, voilà, je vis la vie et puis enfin, ça s'arrêtera jamais. C'est un peu ça. Enfin, c'était un peu ça. Et à ce moment-là, ouais, donc j'ai vraiment une sorte de déclic. Je fais une espèce de petite dépression. Donc je me demande un petit peu où je vais, je fais quoi, machin, tout ça. Et puis voilà, je me suis dit vraiment, bah, aujourd'hui, il faut vraiment toutes les petites choses qui reviennent, à savoir entreprendre, acheter de l'IMO, tout ça, c'est tous ces projets que j'ai envie de faire.
Beaucoup de gens
moment.
Y pensaient depuis longtemps, et moi le premier,
ouais, c'est
hein,
ça.
Avant de...
Souvent, c'est ça, hein, quand je discute avec les gens qui font de l'IMO ou de l'entrepreneuriat, ils ont envie de faire ça depuis qu'ils ont, même des fois, il y en a qui sont ados et qui ont déjà envie d'entreprendre. Et souvent, t'es appelé par ça depuis un moment et tu t'écoutes pas. Et c'est souvent quand il arrive des événements dans ta vie qui font que bah, ça te fait réfléchir et que tu te dis, bah voilà, maintenant je fonce, je fais mes projets. Et donc à ce moment-là, voilà, donc si tu veux, un petit peu une période particulière. Donc je me pose des questions et puis bah, je me dis, allez, j'y vais, quoi. Donc, on sous-estime souvent la valeur d'un projet immobilier. Tu vois, il y en a qui disent acheter un appart, ouais, ça achète un appart. Mais moi, ça a aidé beaucoup plus que ça parce que ça a été ensuite un déclencheur de plein de choses. Parce que tu crées une société, tu gères des rentrées d'argent, des sorties d'argent. Tu sais, c'est une sorte de petit business un petit peu que tu commences à développer. Donc,
c'est vrai qu'il n'y a pas longtemps, j'en parlais avec une investisseuse de quand tu es investisseur, le flux d'argent en fait qui tourne autour de toi. Alors, okay, on essaie d'en garder le plus possible, mais quand tu vois, là, on est parfois dans des périodes sociales, les gens qui manifestent et tout. C'est vrai que les gens qui ont un métier, tu vois, au salaire minimum, en fait, les flux qui tournent autour d'eux sont très faibles, tu vois, parce qu'en fait, ils gagnent peu, ils dépensent peu et tout. Et après, quand tu es investisseur, bah, t'as un coût de dizaines de milliers d'euros chez le notaire. Après, tu loues les trucs. Et très vite, tu peux passer d'un monde en dizaines de milliers d'euros à un monde en centaines.
C'est ça. Et tu te dis que sur une OP, en fait, le nombre de personnes que tu draines dans ton achat, dis-toi, t'as payé un notaire 10 000 balles, on va dire. T'as payé un agent immobilier 10 000 balles. T'as payé des travaux, t'as fait 60 000 euros de travaux. Dans tout ça, t'as payé 20% de TVA. T'as payé plus tout le matériel que le mec a acheté chez le fournisseur. Enfin, tu vois, ça draine énormément de finances.
J'y pense. Enfin, je regarde. Bon, bah, moi, déjà, j'ai pas mal d'appartements. Après, tu payes, ouais, le banquier, l'agent immo, le notaire. Ouais. Des gens un peu propres sur eux et tout. Et en fait, après, tu vois, t'as juste ton pauvre locataire, l'étudiant ou le mec à 1500 euros par mois. Et tu te dis, en fait, tout le projet, il tient sur le gars le plus pauvre, entre guillemets, du.
C'est ouf, hein, quand même, ce cercle. Ouais, c'est clair, c'est vrai ce que tu dis.
Mais en fait, c'est la vie, c'est comme ça.
Mais c'est vrai ce que tu dis, hein. c'est vraiment ça. Ça draine énormément d'argent, énormément de personnes, ça fait vivre des gens. Moi, je suis content pour ça déjà parce que je participe à tout ça. Et bref, je sais plus où on en était.
Et donc quand tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat, dans l'investissement, c'est là où en fait et moi aussi, hein, mine de rien, ça m'a fait prendre bien mes responsabilités. Ouais. Ça te responsabilise, hein. Je sais pas ce que t'en penses.
Vraiment.
Je pense qu'on est vraiment dans en tout cas, moi, c'est le sentiment que j'ai, peut-être que dans une période de déresponsabilisation des gens, toujours avec les études toujours plus longues et tout. Donc, en fait, c'est toujours la faute de quelqu'un d'autre et tout.
Ouais, c'est ça.
Jusqu'à ce qu'il y ait de l'argent en jeu. Quand là, il y a de l'argent, d'un coup,
tu fais plus attention. Et puis, en fait, c'est des responsabilités parce que t'as des gens qui attendent des choses de toi, tu dois quelque chose à des gens, donc tu vois, j'essaie de l'apprendre même à mon fils qui a 4 ans et demi, et il y a une phrase intéressante aussi que j'ai déjà vue quelque part, c'est que si tu mets de la responsabilité sur les épaules de tes enfants, ils resteront les pieds sur terre. Tu vois, c'est pour moi, ça a du sens en fait. Donc c'est pour ça que avant, moi j'étais il y a du courrier que je lisais pas. Enfin, tu sais, j'étais en mode autruche de malade. Et en fait, depuis ce temps-là, depuis 5 ans, je fais vraiment attention à tout ça parce que ça me fait grandir et ça me fait, ça me donne une discipline et ça me responsabilise. Et ça, c'est pas ce qu'on t'apprend toujours selon les parents que t'as, quand t'es enfant et quand t'es ado ou jeune adulte. Donc voilà, j'ai commencé là-dessus. J'ai commencé à acheter 3 places de parking à Paris que j'ai reloué immédiatement. Que j'ai eu
pas cher les places.
Non, j'ai eu à 30 000 les 3.
30 000 les 3.
Ouais, 30 000 les 3, si je te dis pas de bêtises. Et donc, dont une que j'ai coupée en deux pour garer 2 motos dessus. Donc ça me dégage vraiment un tout petit cash flow, mais c'est du patrimoine. Hein. On est à Paris, c'est pas. Mais voilà, j'ai voulu m'essayer avec un
ouais,
premier.
Puis les parkings, c'est. Moi, longtemps, c'est des places non fermées. Hein, je pense à ce prix-là. Hein. C'est des places.
Non, c'est des places en parking souterrain classique, ouais, que tu vois. Et donc voilà, j'ai commencé par ça parce que je voulais vraiment me rassurer. J'avais très peur hein, au départ. Et ma compagne encore plus. Et donc, si tu veux.
Bah, mine ouais, de rien, c'est des années de. Même si tu gagnes assez bien ta vie, 30 000 euros, c'est des années d'épargne. Quoi. C'est toujours. Faut toujours faire le lien quand tu compares justement entre les années de revenus et les années d'épargne. Et tu vois que les gens. Enfin, il y a des dépenses, ça coûte vraiment des.
Bien sûr. Bien sûr, et c'est moi tout cet argent, ça me faisait un peu flipper. Et donc voilà, j'ai commencé par ça. J'ai vu que ça s'était bien passé. Et donc ensuite, j'ai continué avec donc ma, enfin non, ça c'était après ma RP. Et après j'ai continué avec un immeuble de 8 lots. Et celui-ci, il était assez simple. Parce que les locataires étaient déjà en place. Il y en avait un qui manquait, je crois. Il y avait quelques travaux à faire. Et les travaux étaient très jeunes dedans. Je crois qu'on était à 4 ou 5 ans de travaux, donc c'était plutôt clean. Et donc j'ai quand même réussi à avoir un différé de 2 ans dessus en justifiant des travaux. Okay. Et à l'époque, je parle comme un ancien, ouais, mais il y a 4 ans de ça, c'était assez facile d'avoir un différé.
Donc c'était combien le projet?
Alors le projet, si je te dis pas de bêtises, on était à 350 000 euros, je crois.
Pour 8 appartes.
Ouais, pour 8 appartes. Après, on est à Vierzon.
C'est une petite ville. Vierzon, j'ai acheté l'immeuble.
Voilà. C'est ça, ouais. Dédicace à Jacques Brel. et donc voilà, c'est une ville de 25 000 habitants, mais qui tombe très bien en locatif. Il n'y a pas de sujet hein, là-dessus. Il y a de la renta et je crois qu'en revenu annuel je suis près des 30 000, donc on a un petit 9%, on va dire entre 8 et 9% net à peu près, et qui me dégage un petit cash flow entre 400 et 500 balles, je crois. Donc voilà, investissement plutôt sécure, mais qui demande de la gestion quand même, donc voilà, mais j'ai jamais eu de gros problèmes dessus hein. Après il y a toujours eu des petits trucs voisinage, enfin voilà, tous les petits problèmes.
Voisinage dans l'immeuble ou avec les voisins?
Dans l'immeuble. Ah ouais, dans l'immeuble. Ouais. Bon, tu sais, 8 lots, ça commence à. T'as plus de chances d'avoir des gros problèmes.
Ouais, c'est toujours pareil, ouais. Si tu multiplies les trucs, t'as.
Mais non, ça va, c'est dans mon immeuble. Donc, si tu veux, c'est un peu plus gérable que comme si tout. Enfin, d'ailleurs, je crois que t'as un problème avec le pipi de chien,
ouais,
tu m'as dit.
Avec, j'ai encore eu.
Dans une copro, je sais plus. Quand c'est dans une copro, c'est un peu plus compliqué.
Bah, c'est plus compliqué, mais au moins, il n'y a que, entre guillemets, les autres gens, c'est pas tes locataires.
Oui, c'est ça.
Mais ouais, c'est sûr qu'il ne faut pas avoir le problème comme ça, mais tu peux aussi dire, bon, bah, elle paye, c'est ma locataire, mais c'est sûr que c'est dommage pour les gens autour.
Oui, c'est clair. Les nuisances. Mais bon, t'as toujours, enfin, ça fait partie du, pour moi, ça fait partie du jeu, d'avoir des petits soucis comme ça. Hein. T'as pas de. Tu te fais pas un patrimoine comme ça sans problème, ça n'existe
bien
pas.
Bien sûr.
Et donc,
c'est quoi les problèmes qu'il peut y avoir dans un immeuble comme ça?
Le bruit, les fêtes, les parties communes où il y a des trucs qui traînent sur le parking. Enfin, tu vois, au final, c'est des histoires de gamelles, hein, c'est des trucs vraiment petits. Mais tu sais, certaines personnes se plaignent de rien. Donc, de rien. On va dire, voilà, c'est toujours pas agréable, on va dire, d'avoir des communs qui sont sales et tout, je suis d'accord. Mais si tu veux, après, j'ai mis un prestataire ménage.
Ah, un prestataire,
Un prestataire ménage qui vient toutes les 2 semaines passer l'aspirateur et passer un coup de serpillière. Donc, voilà, depuis ce temps-là, j'ai plus ce problème-là, du coup. Ça me coûte un 50, 60 balles par mois, je crois. 100 balles par mois, pardon. Mais je préfère avoir moins de cash flow et être plus tranquille. Tu vois. J'ai jamais compté sur l'IMO aussi pour vivre. Donc, si tu veux, je vois plus ça comme du patrimoine capitalisé que sur le cash flow. Donc, on voit
qu'en un achat, t'as quand même plus de 2000 euros qui rentrent. Enfin, tu vois, quand on parlait des flux, ok, t'en vis pas, mais entre guillemets, Et un jour, tu t'es levé, t'as visité, t'as acheté. Bon, ok, ouais, c'est après, il faut quand même s'en occuper. Mais tu rentres l'équivalent d'un salaire de d'un
ouais,
salaire
c'est moyen. C'est ça. Et puis, tu capitalises du patrimoine parce que tu rembourses à la banque un certain montant. Et puis, ce montant-là, tu vas le récupérer quand tu vas revendre. Donc voilà, un jour, ça fera. Enfin, aujourd'hui, ça ne me rapporte pas énormément d'argent, on va dire, en excédent de trésorerie. Mais quand le jour où je vais revendre, je serai bien content, tu vois. Voilà.
Okay.
Et donc voilà, donc petit à petit, j'achète des choses. Et je prends vite goût à ça, en fait. Je prends vite goût à ça, je pense, comme pas mal de gens qui écoutent le podcast et qui ont intervenu dans le podcast. C'est un engrenage, hein, dès que tu mets le doigt là-dedans. En général, soit t'es pris par le truc, soit t'es
dégoûté, t'as eu une mauvaise expérience, soit.
C'est ça. Donc, moi, j'ai été vite pris par le truc.
T'as eu la fièvre, quoi, le virus.
Ouais,
le virus de l'achat.
Ça. Et puis ouais, c'est ça, le fait de faire un projet, de l'analyser, de faire le dossier bancaire, enfin tu vois, c'est vraiment ça que j'ai aimé, moi, dans le fait de faire des projets IMO. Et voilà ce que je peux te dire.
T'as enchaîné ou t'as juste cet immeuble pour l'instant, en ce moment?
Non. Après, j'ai acheté une autre maison, ça c'est mon dernier, ma dernière OP locatif, en mode locatif. Donc, j'ai acheté une maison, deux maisons mitoyennes. En tout, il y avait 140 mètres carrés. Et je les ai achetés 30 000 euros les deux.
Ah, pas cher. Mais je suppose que c'était pas une cuisine bulle top.
Non, c'était pourri complet. Tout était à refaire là-dedans. J'ai même refait une dalle. Enfin, j'ai eu beaucoup de travaux. Le budget travaux, je crois qu'on était à 80 000 euros. J'ai fait 80 000 euros. J'ai fait un T2, un T2 de 39 mètres carrés, donc un petit T2. Et un loft à côté que je vais mettre en location courte durée qui fait 75 mètres carrés. Où il y a deux chambres et puis dans le salon, hein, possible de couchage aussi.
Ok. Et tu t'es posé la question de tout raser et reconstruire, mais non.
Non, parce que c'est des maisons mitoyennes déjà. Enfin, mitoyennes avec d'autres maisons à côté.
Ah, ok.
Mais non, en fait, je me suis pas posé cette question-là.
Bon, 80 000, c'est cher sans être cher. Enfin, tu construis pas deux maisons à 80 000 euros.
Non, voilà. Je t'avoue que je me suis pas trop posé cette question-là. Parce que si tu veux, la bâtisse est bonne. Vraiment, le bâti est bon. C'est juste un intérieur où il y avait, tout à refaire, hein, complètement. Même la toiture était correcte. Donc, si tu veux, j'ai remanié un petit peu la toiture dessus. Mais voilà, l'ensemble était correct. Donc, si tu veux, je me suis pas posé la question de raser et de construire. Mais ça aurait été sur un terrain vague, peut-être que il est bien placé, peut-être que oui, où j'aurais fait un projet de promotion dessus avec d'autres personnes pour avoir des finances et tout. Mais non, là j'ai pas fait ça, j'ai fait assez simple.
Okay.
J'ai fait assez simple.
Et il y en a, il est en il est pas fini le loft là.
Ouais, le loft, il est pas fini parce que j'ai eu gros problème avec l'artisan à l'époque. J'ai acheté ça, c'était en 2018, juste avant que j'ouvre ma boîte. Et je me suis fait couillonner par l'artisan.
Comme quoi, même quand on est du métier, qu'on a vu des dizaines de chantiers,
exactement,
ça nous arrive.
Exactement. En fait, si tu veux, c'était un gars que je connaissais d'un réseau. Donc, si tu veux, j'ai fait ma grosse erreur là-dessus, c'est que j'ai fait confiance et j'ai pas assez contrôlé. Et en plus, au même moment, mon fils qui avait 6 mois, qui dormait pas, j'avais justement pas envie de j'y allais une semaine, j'y allais une fois par semaine sur le chantier, hein. Mais j'avais pas vraiment envie de m'occuper à fond de tout ça. Et donc ouais, j'ai pas assez contrôlé. Comme quoi, la confiance n'exclut pas le contrôle.
Et c'est vrai que quand il nous arrive des problèmes, souvent dans la vie, c'est un cumul, tu vois. C'est comme on dit les accidents d'avion, c'est pas un truc, c'est ça, plus ce mec, il était pas là, il était malade, quelqu'un l'a remplacé, et puis ce qui a fait ça, et puis toi, t'es... Donc,
c'est ça. Et c'est qu'en fait, le gars avait une mauvaise gestion de ses finances, de la boîte. Et ça, c'est le problème de beaucoup de boîtes du bâtiment. Il y en a qui travaillent très bien, qui sont très bons dans la mise en œuvre, mais qui sont pas des bons gestionnaires. Ça, c'est souvent dans les boîtes du bâtiment. Et là, en l'occurrence, c'était ça. Parce qu'il a pris, en gros, il m'a pris un acompte de 6000 balles, qui était l'avant-dernier, je crois. Et du coup, bah, qui était, comment dire, deux mois après, il a fait une liquidation, enfin, c'est une liquidation judiciaire et puis terminé bonsoir, quoi. donc, moi, ouais, ça fait mal.
Et t'étais pas un créancier privilégié, hein, je pense.
Non. Non. Et puis après j'ai essayé de, tu vois, j'ai lancé une procédure. Ça m'a pris du temps, ça m'a pris de l'énergie. Je pensais vraiment que j'allais récupérer mon argent, machin. Et en fait, c'est plus la, comment dire, l'ego, mon ego qui a parlé. Donc, comme quoi, des fois, ça sert. Enfin, ça sert pas tout. L'ego, il en faut, mais pas. Enfin.
L'ego, c'est bien dans la vie, je trouve, mais c'est vrai que parfois, faut toujours. Peser son argent, son énergie et son temps.
Ouais,
et parfois, ça fait chier. Hein. Et moi, typiquement, j'ai eu un concert, j'étais un escroc. Il a mis, au bout d'un moment, il ne payait plus. Il avait 75 apparts qui ne payaient plus à la fin. Il mettait des prostituées dedans et tout. Et qui ne répondaient plus. Enfin, il a fait plein de trucs. Et moi, j'ai rien fait. Je suis allé chez lui, j'ai toqué. Je suis allé à minuit, j'ai récupéré les clés, je me suis cassé. Et après, j'ai eu des gens, je pense même qu'il y en a peut-être qui écoutent le podcast, hein, qui ont voulu le poursuivre et tout, mais moi, j'avais pas le temps, tu vois. Et en plus, c'est vrai que j'avais très peu de... En gros, je voyais qu'il y avait pas de résa sur mes... Moi, je pensais que j'étais tranquille parce que Airbnb Booking me versait l'argent. En fait, lui, il passait à outre. Donc, parce que toutes les prostituées, je suppose, n'ont pas de compte Airbnb. Donc, il y a d'autres réseaux. Il y a d'autres réseaux. Et tu vois, je pense que ça a été, pour le coup, une bonne décision. Mais tu vois, le gars, en gros, tu sais clairement qu'il s'est foutu de ta gueule. Je l'avais vu encore deux semaines avant. Il me disait, non, mais en fait, les paiements, ils vont arriver. Il y a eu un problème, justement, quand on a switché de compte, je sais pas quoi. Moi, je lui avais dit, bon, dans deux semaines, je viens, je prends les clés. Mais tu sais que deux semaines avant, il se foutait de ta gueule. Il savait très bien que les deux semaines après, et ça fait... Et c'est... Mais bon, voilà, tu te dis, c'est du biz. Maintenant, moi, je veux le relouer le plus vite possible, l'appart. Donc toi, à refaire, tu ferais pas de procès?
Non, je ferais pas de procès parce que j'ai perdu 2 ans et demi de ma vie. En plus, je pouvais pas avancer dans le chantier parce que si tu veux, il y avait l'huissier qui devait passer, machin, tout ça, donc je devais toucher à rien. Et du coup, je m'y suis remis là, il y a pas longtemps, il y a un mois et demi. Hein. Donc, si tu veux,
donc de 2018 à 2023, à limite, quoi. Ça fait 5
ans. Ah ouais, non, mais c'était méga long. C'était méga long. Donc, j'ai perdu. Ouais. Enfin, 2018, non, c'est quand j'ai acheté. Après, si tu veux, fin du chantier, on était 2019, début 2020.
Ok.
Tu veux, c'est un peu tardé le temps que je signe et que je commence les travaux. Enfin, j'ai attendu pas mal de temps. Et mais ouais, 2020, ça fait 3 ans quoi que c'est là. Et puis ouais, enfin voilà, je referai pas du tout ça. Tant pis, je m'asserrai dessus la prochaine fois. La prochaine fois, si c'était à refaire, pardon. Et puis j'aurais fait autrement quoi, j'aurais optimisé, j'aurais trouvé d'autres moyens pour finir mes travaux, j'aurais fait moi-même. Enfin. Mais voilà,
après, c'est ça, parce qu'en 2 ans, 6000 euros versus 2 ans de loyer, si tu loues que 500 euros, on a vite fait le compte, quoi.
Ouais, c'est clair. Donc, voilà. Donc, là, je suis dedans. Et puis, le petit est en location. Et, le loft va être en location courte durée. Et ça va être une petite machine à cash sympathique.
Bah, on espère. Après, ça, en plus, ouais, c'est un projet à 110 000. Combien tu loues le petit?
Prix total, je crois, avec notaire, agent immobilier, machin, tout ça, je suis à 123 000, je crois, 124 000. Le petit, je le loue 460, pardon. Et le gros, on va dire que j'ai fait des calculs assez basiques. Je vais le mettre dans une conciergerie qui s'appelle Oikia, d'ailleurs, qui est bien, que je recommande, à qui j'ai déjà testé et que mes clients aussi ont déjà testé. Je vais le mettre à 110 euros la nuitée.
Okay.
J'ai calculé sur un taux de remplissage à 60% moins environ 20% de conciergerie, 25% on va dire avec le ménage et tout ça. Sur ma rentabilité globale de ce projet-là, je vais être environ une rentabilité de 16%, je crois, un truc comme ça.
Sur l'appart ou sur les deux maisons?
Sur le total.
Ok. Ouais. Ah bah top. Top, top.
Donc voilà, c'est pas mal du tout.
Ok. Et ça, c'est dans ta... Tu passes par la conciergerie par manque de temps ou parce que tu n'es pas sur place?
Par manque de temps. Parce que c'est okay. À côté, hein. C'est juste à côté de chez moi, mais okay. J'ai vraiment pas l'envie de m'en occuper. Et puis voilà, je veux pas. C'est-à-dire, je veux pas que mon téléphone sonne parce que y en a un qui a cassé un robinet, je sais pas.
Parce que moi, tu vois, l'appart là où j'ai le problème avec la locataire, j'ai un gestionnaire en fait. Sauf que c'est le concierge de l'immeuble qui m'a appelé.
D'accord.
Et donc le concierge, sûrement que le syndic lui a filé mon numéro, tu vois. Donc c'est quand même après à moi de gérer une fois qu'il y a le concierge. En plus, c'est ton appart. Hein. Alors que tu vois, les locataires dès qu'ils m'appellent, si le peu qui ont mon numéro. Je les renvoie vers le.
Après, vers si tu veux, la conciergerie, elle a cette règle-là, c'est que jusqu'à 100 balles, elle te consulte pas.
Ouais. Nous, on leur dit même 500 au concierge.
Ouais, voilà. Ben, tu vois, 100 balles, ça fait un robinet, une poignée de porte, enfin, tu vois, des bricoles. Et après, au-delà de ça, elle t'appelle, mais moi, j'ai pas le plombier au téléphone ou le.
Ah, bien sûr.
Ou tu vois. Enfin, voilà, j'ai pas envie de. J'ai juste pas envie de m'occuper de ça, quoi. Voilà.
Je comprends très bien, parce que je le fais pas non plus. ok, maintenant on arrive à ton aventure entrepreneuriale.
Ouais. Et
donc là, t'as fini ton activité de commercial en pompe à chaleur.
Je fais une rupture conventionnelle. Du coup, j'ai 2 ans de Pôle emploi devant moi pour lancer un projet. Donc, en fait, si tu veux, j'avais déjà commencé pendant ma période de commercial à me dire que je voulais faire du clé en main. Ça a commencé comme ça. Parce que je voyais d'autres projets, mais voilà, je pouvais pas me positionner. Et donc, je me suis dit, voilà, je le propose à d'autres personnes. Et voilà, je facture mes services pour que les gens puissent investir sans s'en occuper, entre guillemets. Donc, du coup, j'ouvre... J'ouvre une SAS. Je vois une SAS qui s'appelait Projet Investissement Locatif. Tout seul. Je fais ça tout seul. Et je me mets dans un bureau avec un maître d'œuvre, justement pour qu'il réponde rapidement à mes chiffrages sur les projets que je vais voir pour des clients. Donc ça a commencé comme ça. Donc, je commençais à bosser le soir dessus. Le week-end, et puis après, au bout d'un moment, je me dis, voilà, si je veux développer le projet, faut plus que je me laisse le choix, donc je pars de mon boulot. Et donc, voilà, j'ai le chômage, donc je continue. L'activité prend plutôt bien. Je fais un petit peu de chiffres. Et donc, du coup, je m'associe avec le maître d'œuvre dans lequel je suis dans ses bureaux. Et donc voilà, j'ai ma structure plus la société de maîtrise d'œuvre. Et donc voilà, on a fait combien de temps ensemble? On a fait 2 ans ensemble jusqu'à l'année dernière, jusqu'en 2022. Et 2022 a été une année de changement. On va dire que là, de 2020 à 2022, ça a été mes premières années entrepreneuriales où j'ai appris beaucoup de choses. Où j'ai pas gagné énormément d'argent.
Heureusement, t'avais Pôle emploi, plus.
Ouais, en plus, j'avais Pôle emploi. Voilà. Mais j'ai appris énormément de choses et je me suis fait un super réseau. Donc voilà, c'est pas. Ça a fini par une séparation avec mon ancien associé. On n'avait pas juste la même vision des choses et le même fonctionnement ou la façon, je veux dire, de gérer une boîte. Moi, je suis plus haut, tu sais, un petit peu, j'aime bien poser les choses, j'ai un tableau, j'écris tout dessus, je mets en place des process pour justement voir ce qui marche, ce qui marche pas, plutôt que de foncer tête baissée et me dire, relever la tête à un moment donné, dire, merde, il y a des problèmes, comment on fait? Bon, si tu veux, j'essaie d'être un maximum organisé pour le moins me planter possible, moins me planter possible, même si on se plante toujours, hein. Mais alors que lui fonctionnait pas comme ça.
Parce que si je peux juste te couper, je pense que c'est un vrai problème. Après, moi, j'ai jamais géré d'artisans et tout, mais tout le monde voit bien que la plupart des artisans ou des gens du bâtiment ont des salaires qui sont assez faibles et que quand toi tu fais des travaux, c'est hyper cher. Et donc, il y a un moment, tu te dis, Il y a que l'État français qui arrive à faire pareil, hein. C'est à prendre beaucoup, tu payes beaucoup, et en ouais. contrepartie, personne n'y gagne, quoi. Mais, et de ce que j'ai pu voir, c'est que souvent, les artisans, ils sont hyper mal organisés. Ils,
oui,
ils
oui.
passent sur un chantier une heure, ils reviennent.
C'est
ils
ça.
Moi,
c'est ça. Et sur la gestion financière.
Il faisait des travaux. Il avait plus qu'une lampe à faire poser. Ouais. L'électricien lui devait 8000 euros. Enfin, lui, il devait 8000 euros à l'électricien. Ils avaient fait les travaux il y a 6 mois et il restait plus qu'une lampe. Et il me disait, ouais, ils viennent pas pour mais c'était un boulot de 2 heures. J'étais là quand le gars, il a installé la lampe. Et je dis, bah, tu payes pas tant qu'ils viennent pas, tu payes pas parce que même là, tu dois 8000 euros, il vient pas. Tu te dis, mais qui peut s'asseoir comme ça sur, enfin, et laisser traîner pendant.
Il y a que dans le bâtiment que t'entends des histoires comme ça.
Ouais.
Mais vraiment, moi, j'entends toujours. Et enfin, souvent, que bah, l'autre, l'artisan entend, il lui reste un bout de mur, enfin un bout de sol à poser, une lampe, comme tu dis, 3 interrupteurs, il y a un acompte de 2500 balles qui traîne, et le gars, il vient pas. Il répond pas au téléphone, c'est que ça, en fait. Et je dis pas que mon ancien associé, c'était ça, mais dans l'organisation, c'était type artisan, tu vois, les gars sont très bons de leurs mains. Mais à côté de ça, c'est pas des bons gestionnaires. C'était un peu ça. Mais après, on s'est quitté en très bon terme. Hein. Il fait très bien son boulot. Si tu veux, on était complémentaires dans le sens où moi j'ai plus cette casquette de gérant, on va dire, et lui c'est plus cette casquette de terrain, de directeur travaux, on va dire, on va l'appeler comme ça. Mais si tu veux, c'était tellement, ça devenait tellement de la
Évidemment, ça exaspère, quoi. Je pense
ouais,
que
c'est ça. Aussi, c'est exaspérant et ça peut plus durer comme ça. Donc, si tu veux, c'est pour ça qu'on s'est quitté. Pourtant, nos rôles étaient complémentaires. Mmh. Mais quand
l'un. Tu peux juste peut-être raconter, parce que, tu sais, je crois qu'il y a un livre qui s'appelle, j'ai jamais lu, mais Crucial Conversation ou un truc comme ça. Comment ça se passe le moment où le jour où tu décides de te séparer, quand ça se passe, quoi? Est-ce que c'est genre, t'en as trop marre, tu pètes un plomb contre lui, ou c'est un truc que t'as réfléchi des semaines, ou c'est lui qui te l'a dit, comment s'est passé l'instant de.
C'est une très bonne question, ce que tu dis. C'est comme si tu larguais une meuf.
Ouais. Mais nous, les hommes, souvent, on n'est pas bons pour ça. Donc, c'est pour ça que je te pose la question.
Je te jure, c'est vrai. C'est comme si tu mettais fin à une relation. Parce qu'en fait, une association, c'est comme un mariage. Hein. Tu vas chez le notaire, tu signes des statuts. Tu te roules pas des pelles après, mais voilà. Mais tu passes beaucoup de temps avec cette personne-là. Vous vous appelez tous les jours. Vous faites, enfin, tu sais, ton équilibre financier et ton équilibre professionnel dépend de votre relation. Enfin, c'est deux personnes qui sont là pour aller dans la même direction, mais qui doivent être complémentaires pour avancer. Mais oui, c'est marrant ce que tu me disais parce que je revois tout à fait la scène. On était devant sur le parking et je dis, écoute, voilà. Tu vois que c'est marrant parce que c'est exactement le
c'est
même
pas
discours.
Toi, c'est moi.
c'est le même discours qu'avec les filles. Ça peut plus durer comme ça. Quand je te dis ça, enfin, tu vois, il y a pas d'écoute. C'est chelou, mais c'est pareil. Et du coup, c'était vraiment particulier. Mais c'est comme une rupture amoureuse, mais dans l'entrepreneuriat. Franchement, si je peux te le résumer de la meilleure façon, c'est ça. Et dis-toi quand même qu'après ça, je te parle de ça, là, on est au mois de mai 2022. Et au même moment, en plus, je rencontre Guillaume et Émilie de Club Immobilier et qui me font, entre guillemets, une proposition d'association sur la partie immo clé en main. Donc, moi, j'avais déjà mon activité avant. Donc, si tu veux, j'ai fermé ma boîte et on s'est associé sur une nouvelle structure. Et donc, si tu veux, en gros, ça tombait à pic parce que j'allais sur une autre activité sur laquelle j'avais envie de me consacrer et l'ancienne, voilà, pouvait plus durer. Donc
ouais, on quelle est la différence entre les deux activités que tu faisais avant et après, à part les associés?
Et je fais exactement la même chose qu'avant,
okay.
Sauf que j'ai pas les mêmes associés.
Okay.
Sur la partie immobilière,
tu chasses les biens aussi ou comment?
Alors ouais, pour ceux qui connaissent pas, c'est Oikos Immobilier. Donc moi, je suis associé sur cette structure-là avec Guillaume et Émilie Malguir. Et on fait de l'investissement immobilier clé en main. Voilà. C'est-à-dire qu'on s'occupe de la chasse, on aiguille, on va dire, sur le financement avec un partenaire qui nous suit tous les jours. Et on a un conducteur de travaux en interne par agence qui s'occupe des travaux de l'opération. On a aussi un cabinet d'expertise comptable qui est là au moment du compromis pour choisir la meilleure solution fiscale du client et ensuite de la gestion locative. Donc en fait, on s'occupe vraiment de tout jusqu'à la fin. C'est-à-dire que le client a juste à prendre, à nous dire ce qu'il veut au début. Ensuite, il prend les décisions à chaque étape clé du projet. Et à la fin, on lui livre son projet loué. Voilà.
Ok,
Que
et
ça
toi,
soit.
ton rôle dans la structure, c'est les travaux, je suppose. Ah, c'est
Non,
tout.
moi je suis associé, c'est-à-dire je développe la boîte, je développe la boîte et j'ai aussi le rôle entre guillemets de responsable d'agence en
Ok.
région centre et voilà je drive mes équipes chaque semaine pour aller pour progresser, aller chercher des biens pour nos clients. Voilà. Et donc ça c'est ma première activité, ma deuxième activité. Celle-ci, Oiko, je suis à 85% de mon temps en dessus et le reste je suis sur une structure qui s'appelle Facility où je suis dans les bureaux ici et ça c'est une structure de maîtrise d'œuvre où on a où je suis associé avec un maître d'œuvre et un géomètre et là on est sur une structure travaux pure qui va répondre à des marchés travaux plus ou moins grands et on a des équipes en interne qui font des plombiers, des plaquistes, des maçons qui font qui ont leurs camions, leurs outils qui vont intervenir sur des chantiers qu'on a rentrés. Et moi, sur cette structure-là, je ramène du business essentiellement, c'est-à-dire que je suis pas du tout à l'opérationnel.
Ok.
Donc je ramène mon réseau pour cette boîte-là.
Et les associés, et les salaires, vous aviez des salariés avant dans ton ancienne boîte?
Oui, ouais, on avait des salariés. En fait, avant, on était sur mon ancienne structure, on était maître d'œuvre. Donc, comment dire, on n'embauchait pas on n'avait pas de plombier, de maçon. On avait vraiment plus de la matière grise. On avait une secrétaire, on avait un conducteur de travaux et un dessinateur. Donc,
Ok.
vraiment, la partie gestion, la partie gestion du bas, du fin de chantier quoi.
Ok.
On n'avait pas d'équipe travaux, si tu veux.
Ok. Et le
Et aujourd'hui,
dessinateur, il fait quoi exactement?
le dessinateur, il faisait les DP, il rédigeait les permis de construire, il allait faire du relevé sur place, il dessinait, voilà, il dessinait du plan, il faisait que ça.
Ok.
Il faisait que ça. Après, les permis de construire, bon, il est dessiné, après, on allait voir un archi pour les valider. Mais voilà, il dessinait essentiellement. Et
Ok.
aujourd'hui, on a la même structure, mais en fait, on est sous une structure tout corps d'État. Donc, on fait la même chose, mais sauf que dans une structure tout corps d'État, tu peux embaucher directement, acheter un camion, embaucher un plombier, un électricien, un maçon, un plaquiste, voilà. Et nous, si tu veux, enfin, moi, c'était mon choix. C'était d'avoir mes équipes en interne pour moins dépendre des sous-traitants. Donc, si tu veux, aujourd'hui, voilà, on embauche des ouvriers qualifiés qui interviennent sur le chantier directement.
Et tu peux nous parler peut-être de cette embauche, comment on embauche? Comment on embauche un
Ouais.
bon plombier, un bon électricien, un bon.
Bah, sur les deux structures, si tu veux, c'est complètement différent. Si je te parle des deux structures, la structure Oikos, je marche beaucoup au feeling, c'est-à-dire est-ce que la personne vraiment a des bonnes valeurs et un bon état d'esprit, je mise beaucoup là-dessus, on va
Mais
dire à
là, c'est
80%.
là t'es dans, tu parles des ouvriers ou tu parles des gens qui cherchent les biens?
Je parle des gens qui, enfin, des chasseurs sur
Ok.
Oikos.
Parce que
Et
chez Eco, vous n'avez pas d'ouvriers en interne.
non, 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 on a
Ok.
des chasseurs et des conducteurs de travaux. Voilà.
Et les
Et
conducteurs de travaux, c'est eux qui embauchent les artisans.
c'est un autre, c'est un autre, c'est un autre. Ouais, les conducteurs de travaux, ils vont chercher les entreprises qui vont faire les travaux.
Ok.
Et si tu veux et par contre sur la partie bâtiment, ouais, c'est autre chose. Je t'avoue que quand même, c'est quand même un monde. c'est quand même une façon particulière d'aborder des ouvriers. Moi, je l'ai été, hein, j'ai été plombier, je sais ce que c'est que de travailler dans le froid, dans le chaud. Enfin voilà, c'est des métiers qui sont pas simples. Et si tu veux, enfin voilà, c'est une mentalité qui est différente aussi.
Bien sûr,
Enfin, tu
t'as
vois,
des gens, enfin, moi je connaissais très bien quelqu'un qui travaillait dans une boîte et les gens, ça arrivait qu'ils buvaient de la bière le matin, quoi. Hein, c'est un truc.
Ouais, complètement.
Et toi, t'es là, c'est un peu comme je pense les enfants, tu sais, que les parents, ils veulent que leurs enfants, ils aient que des jouets en bois, et puis après, au bout de quelques mois, t'as le gros truc Marvel, tout en plastique et tout, bah, je crois que
Non,
c'est pareil avec la bière et les ouvriers. Au
ouais,
début, tu te dis, ouais, ils vont pas boire de bière sur les chantiers, et
bah,
puis
c'est
plus
vrai que
tard.
c'est une culture en fait, si tu veux, enfin, c'est tellement, comment dire, c'est des
Ça
métiers
rend...
qui sont tellement compliqués et tellement durs que en fait c'est ça, ouais, ça fait des c'est enfin, tu vas pas boire des bières sur un chantier comme tu vas boire des bières au bureau, tu vois, c'est pas pareil. Donc bon, quoi que tu vas me dire, il y en a, mais oui, pour te dire que c'est une façon différente d'aborder ces personnes-là. Et en fait, et c'est pas du tout négligent, hein, ce que je dis, attention, c'est que, comme je te disais juste avant, moi je l'ai été. Et en fait, c'est comment dire, c'est nous, on a décidé de bien les payer. Donc en moyenne, chez nous, ils sont payés 2000 euros net. Ce qui est bien dans une entreprise du bâtiment. Et derrière ça, si tu veux, c'est souvent, moi, c'était souvent, je me souviens, le manque de reconnaissance que je ressentais, dans le sens où on te parle, c'est un petit peu un métier où on peut te parler comme de la merde assez facilement. Je parlais de mes chefs, hein, j'avais eu un patron horrible, hein, je me souviens. Et d'ailleurs, ce patron-là m'a inspiré parce que je me suis toujours dit que suite à comment il me parlait, que j'allais jamais parler à des gens comme ça de toute ma vie, parce que tu peux détruire des gens, hein, comme ça, hein, en leur parlant mal. Et donc, si tu veux, j'essaie d'être le plus bienveillant possible avec les gens dans le milieu du travail, même si voilà, on est sur du business, on doit faire des résultats et tout ça. Mais il faut faire quand même, il faut, enfin, j'essaie d'être le maximum humain, voilà. Même s'il y a beaucoup de chiffres qui rentrent en jeu, il y a, tu vois, sur la société Facility, on fait, là, cette année, je pense qu'on va faire 1,5 million à peu près, même un peu plus. Donc, mais voilà, c'est pas parce qu'il y a 1,5 million que tu dois prendre les gens comme des pions, parce que faut se dire que si t'as pas ces personnes-là,
T'es
t'es mort,
mort.
en fait.
T'es
T'es mort,
mort.
tu
En
fais
plus, si
rien.
t'as des pénalités sur les chantiers et tout,
C'est
t'es...
ça, c'est ça. Et
t'es...
même en tant qu'investisseur, t'as pas ces gens-là, tu ne fais rien. Voilà. Et c'est souvent des métiers qui sont sous-estimés parce que bah c'est ce qui nous entoure, hein, les travaux, c'est ce qui te tient chaud,
Bien
c'est ce qui te
sûr.
fait, voilà. Mais voilà, ouais, pour te dire, si, pour te résumer, pour le recrutement, c'est vraiment, j'essaie d'être humain à un max. Et puis bien sûr, il y a les compétences de la personne qui rentrent en compte. Et
Donc tu
avec
fais
ça.
quoi? Tu vois des chantiers où ils ont des chantiers,
Non, 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 c'est
comment
vraiment des
tu...
personnes que je. C'est quelqu'un qui vient pour signer un CDI chez nous, en principe. Donc, si tu veux, c'est vraiment la première impression qui va faire qu'on va l'embaucher ou pas. Et après, bah, on essaye ces
Ouais,
périodes
c'est vrai
d'essai. Hein.
qu'après, t'as la période d'essai, tu peux vérifier.
C'est
Par contre,
ça?
c'est un peu peut-être l'avantage de ce métier, c'est que si t'embauches un, je sais pas, un financier ou un marketeur ou quoi, ça, c'est plus dur de vérifier ses compétences et son apport à moyen terme, alors qu'un ouvrier, bah, tu vois assez vite s'il sait faire les
Oui,
choses ou pas et comment il s'organise et
c'est ça.
comment il range son camion et ses outils et tout
Ouais, c'est
ça, et
ça.
s'il
C'est des
respecte
petites
les
choses,
délais.
c'est exactement ça. C'est des petites choses comme ça qui vont faire que tu vas dire, putain, lui, voilà, il est ponctuel, il est respectueux, il range bien son camion, il est soigneux, il est bosseur parce qu'il est volontaire. Tu vois, c'est toutes ces choses-là qu'on regarde. Et pareil sur Oikos, si tu veux. Sur Oikos, c'est différent parce que les chasseurs immobiliers, ils vont chasser des biens. Et l'immobilier, ça a une inertie de malade. C'est-à-dire que tu peux trouver un bien aujourd'hui et le signer dans 6 mois, tu vois. Donc,
Puis le temps de te faire ton réseau quand tu te lances et tout, c'est chaud, hein,
ouais, c'est ça.
franchement.
C'est ça. Donc voilà, c'est pour ça que, moi, enfin, surtout sur ces profils chasseurs de biens, je mise beaucoup sur l'envie de la personne. L'envie de la personne et la volonté de cette personne-là et son état d'esprit, quoi, en général. Et tu vois, enfin, j'entends souvent dire des gens, ouais, Il y a plus de personnes compétentes, les gens ils veulent rien foutre, machin. J'entends ça toutes les semaines. Et en fait, moi, je sais pas, je me dis pas ça, naturellement, peut-être. Moi, je crois toujours qu'il y a des gens qui veulent travailler et que tu peux les rendre épanouis au travail. J'ai jamais été de, enfin, tu vois, le podcast s'appelle Bye Bye Patron, mais j'ai jamais été des personnes qui disent que le travail c'est la rat race. Enfin, tu vois, c'est un terme que j'aime pas moi personnellement. Hein. C'est vraiment personnel. Je pense qu'il y a des personnes. Il y aura jamais que des patrons partout.
Bien sûr.
Et il y aura toujours des personnes, voilà, qui salariés, ça leur va bien. Et il faut pas oublier que sans ces salariés-là, notre monde il tournerait pas. Et si on veut qu'ils soient épanouis, et ben faut voilà, si tu prends soin d'eux, normalement ils travaillent bien. Et s'ils travaillent bien, et ben voilà, faut prendre soin d'eux pour les garder, quoi. Ouais. Et puis voilà, faut créer des liens avec eux. Faut pas que ça. J'aime pas les trucs purement professionnels, formels. Je suis pas comme ça, moi. Tu vois, j'essaie de m'intéresser un maximum aux personnes pour échanger avec elles, et puis c'est tout. Enfin voilà, comme je te disais, bienveillance.
Donc la bienveillance et tout, et c'est vrai que c'est important. Est-ce que t'as une sorte de, quand même, faut être un peu ferme aussi parfois, non? Enfin, je suppose, c'est comme ça qu'on.
Bien sûr.
Comment t'arrives à allier un peu ces deux questions. Est-ce que tu leur mets, tu les, enfin, tu vois, moi, par exemple, j'ai un artisan avec qui je travaille souvent, c'est pas du tout un de mes salariés, mais avec lui, on va boire des cafés ensemble, parfois on rigole même un peu, mais en gros, je lui dis les dates et il sait très bien, enfin, je lui dis le chantier c'est là, il doit être fini là, et puis je vais le voir et je lui dis si tu te rappelles, c'est là et tout, et puis il a toujours respecté les délais. Et en fait, moi, en tout cas, j'arrive à mixer un peu les deux, justement, en responsabilisant un peu les gens. Je sais pas si t'as une autre stratégie, mais.
Si, c'est super intéressant ce que tu dis. Parce que, tu vois, comme je te disais, je suis pas en mode machine, je partage pas, d'émotions avec mes salariés. J'ai dit tu fais ça, bonjour, merci, au revoir. Non, tu vois, je suis assez ferme quand je donne, on va dire, des directives entre guillemets. Je donne des objectifs à atteindre, et tu vois, si ces objectifs sont atteints, je les invite à manger, et c'est là que tu échanges des vrais sujets avec ces gens-là, comme tu dis, boire un café, tu vois, ne serait-ce que des fois de sortir du cadre du travail. Tu sais, passer voir les gars sur le chantier et leur dire bah venez, bah je vous invite à bouffer ce midi, et là tu pars dans d'autres conversations, et c'est une sorte de récompense qu'on se donne parce qu'on a fini un chantier, ou parce qu'on vient de signer un bien, ou parce que, tu vois, mais à côté de ça, voilà, le lundi on se donne les objectifs de la semaine, du mois plutôt, et le vendredi on fait le point, enfin voilà, et comment dire, bah j'hésite pas à dire bah c'est où, enfin là il y a quelque chose qui s'est mal passé, t'as pas réussi à avoir à atteindre tes objectifs, qu'est-ce que tu ferais de mieux pour pouvoir les atteindre, tu vois, et je suis pas dans le truc où t'as pas fait ça, tu vois, c'est pas constructif selon moi. Et comme quand tu parles à un enfant, tu vois, mon fils, moi j'essaie plus de lui apporter une solution plutôt que de mettre le point là où il a pas réussi. Parce que ça, en gros, dire à quelqu'un t'as été nul là-dessus, ça va rien changer, en fait. Je suis vraiment convaincu de ça. Et alors que si t'amènes une solution directe au problème, et ben tu dis ouais, ok, là tu vois, pour moi ça fait avancer les choses, et tu perds pas de temps dans la négativité à signer, comment dire, à
en fait, c'est un peu comme, c'est nouveau une question un peu d'ego. Enfin, de voilà, t'as des gens, sûr. Ça les soulage de se défouler sur quelqu'un. Et,
oui, c'est
et
ça.
Après, c'est un peu ça qui peut. C'est parce ça. Que ça fait pas du bien d'être de l'autre côté.
Non, et puis ça fait du bien à personne au final, parce que c'est pas. Enfin, pour moi, c'est pas quelque chose de constructif. Et si tu mets bien en place le cadre de départ, comme dans une négociation, comme dans une relation de partenariat, tu dis voilà, ça va marcher comme ça, comme ça, comme ça. Par contre, s'il y a ça, on met fin à la période d'essai. Si c'est ça, eh ben, c'est, on ne peut pas travailler ensemble, en fait. Et ça, je le dis dès le départ. C'est ce qui compte, c'est comme dans une relation amoureuse, toujours. Mmh. C'est un peu la même chose. Tu dis, voilà, moi, mes règles perso, bah, c'est ça, ça, ça. Si, bah, moi, pour moi, ça sort de ça, eh ben, c'est peut-être, c'est pas fait pour moi et on n'avancera pas ensemble. Mmh. En gros, c'est, voilà, c'est, pour moi, c'est bien se dire les choses dès le départ pour justement assurer une route derrière qui va être sympa avec cette personne-là.
Ok. Tu vois? Intéressant. Je pense qu'il est dur que peut-être que nous, alors peut-être tout le monde n'est pas dans cet état d'esprit, mais ce que nous on peut avoir du mal avec tout ce qui est justement les ouvriers et tout, c'est que nous on est un peu déterminés, on a un peu d'ambition, on veut gagner peut-être. Alors c'est pas gagner, enfin l'argent c'est toujours compliqué, mais en gros gagner plus, aller vers plus haut. Et en fait t'as des gens, ils ont aucune entre guillemets aucune ambition si ce n'est de voilà de. Fin, dans leur métier, ils savent qu'ils pourront pas spécialement évoluer. T'en as tout simplement, t'en as typiquement ouais. Chez qui savent mal lire, tu vois. Enfin, moi, je sais que la personne que je connaissais qui travaillait dans le bâtiment, elle avait plein d'ouvriers. Ils savaient pas très bien lire. Donc, tu vois, ils seront. Enfin, en gros, sauf bon, t'as un cas sur t'as le gars là des échafaudages. Là, je sais plus comment il s'appelle là, mais. sinon, enfin, t'as un cas sur un million qui sort un peu du lot, mais t'as des personnes, c'est pas du tout leur ambition d'être, tu vois, d'aller vers mieux, parce que toi, à la limite, ouais. T'es prêt peut-être à te faire gueuler dessus, si tu sais que tôt ou tard, il y aura une, tu vois, tu vas monter en grade ou tu vas acquérir un truc et tout ça, alors que t'as des personnes, en fait, moi, j'ai un ami comme ça, il a pas fait d'études ni rien, il travaille pas souvent, de temps en temps, alors c'est un peu compliqué, mais en fait, t'as vachement du mal à te mettre dans son état d'esprit, où lui, il sait qu'en gros, ses revenus seront toujours un peu les mêmes, sa vie, elle va jamais vraiment s'arranger, et en tout cas, sur le plan matériel.
Tu veux savoir si s'il y a des personnes, des salariés comme ça, tu veux dire?
S'il y a des salariés comme ça aussi, enfin, je pense que t'en as quand même, des gens qui sont, voilà, pour eux, genre être patron, c'est impossible et tout ça. Enfin,
oui,
tu
vois, bien
des
sûr.
Trucs comme ça.
Bien sûr, bien sûr. Et ouais, carrément. Mais après, tu vois.
En fait, tu les diriges autrement, je pense. Tu vois, c'est ça, juste.
C'est un peu cliché ce que je dis, mais si tu veux, j'essaie vraiment d'aller chercher ce que la personne a de meilleur en elle. Mmh. Et en fait, si tu veux, j'essaie vraiment chaque jour d'être un meilleur manager. Et c'est ce que j'aime. En fait, j'aime vraiment beaucoup parler aux gens. Tu vois, genre le podcast qu'on fait là, j'aime vraiment parler avec toi parce qu'il y a des vrais échanges et j'aime bien. Et c'est là-dessus qu'en fait que c'est en parlant avec beaucoup de gens que j'ai appris plein de choses et souvent à des passionnés. Bref, c'est juste pour te dire qu'en fait, quand tu parles beaucoup avec les gens et que t'aimes parler avec eux, tu captes un petit peu là où ils sont bons. Et en fait, ce qu'on nous a appris à l'école à chaque fois, nous, c'est d'être moyen partout. Tu vois, genre, est-ce que tu as eu la moyenne en tout? En gros, c'était ça, quoi. Le but du trimestre au conseil de classe, c'était ça.
C'est d'avoir aucune matière où tu avais moins que 10 ou 8.
Ouais, c'est ça. Et pour moi, ça devrait être quand même, t'es bon en quoi? Viens, on travaille là-dessus pour justement que tu sois meilleur. Dans ce domaine-là. Et si tu veux, s'il y a une personne, je pense que si une personne elle est comme ça, c'est soit parce que sa famille l'a pas encouragée ou son entourage n'est pas assez, n'est pas comme ça. Parce que moi avant j'étais comme ça. Je te parle quand j'avais 20 ans. Dans ma tête, c'était quand je regardais mon entourage, quand je regardais ma famille. Bon, je viens pas d'une famille d'entrepreneurs, mais tu vois, mon plus grand frère, il avait il dessinait les tableaux de bord des futurs Peugeot chez PSA. Donc tu vois, pour moi, il avait un super taf et c'était ça, tu vois, que fallait que, enfin, c'était un poste similaire qu'il fallait que, une échelle sociale similaire qu'il fallait que j'atteigne. Pour moi, c'était déjà énorme. Pour moi, c'était suffisant, tu vois. C'est ça que je veux dire. Et pour moi, c'était suffisant dans le sens où il ne fallait pas que j'aille chercher beaucoup soit devenir patron ou soit devenir investisseur ou machin. Pour moi, c'était hors de ma pensée parce que j'avais juste pas l'entourage autour de moi qui faisaient ça. Mais à partir du moment où, tu vois, il y a eu des séminaires comme ça, et franchement, je remercie tout ça, parce que tu arrives là-dedans et tu as des investisseurs, des entrepreneurs qui sont assez ouverts et justement qui ont cette générosité et qui te racontent leur histoire et qui te, sans vouloir même trop t'influencer parfois, mais tu vois, qui dégagent tellement de confiance en eux, de comment dire, comment on appelle ça,
ouais, d'assurance, quoi.
Voilà, d'assurance. J'allais dire le mot anglais là, comment il s'appelle, l'assurance en anglais, leadership. Enfin, je sais pas, je pense à un truc un peu similaire. Et bref, voilà, enfin, tu vois que ces personnes-là dégagent un certain truc et tu te dis, putain, merde, c'est, enfin, tu vois, c'est cette personne a l'air bien dans sa peau dans ce qu'elle fait. Donc, et puis bref, ça te donne envie. Enfin, moi, ça a commencé comme ça, tu vois. Mais je pense que tout dépend de l'entourage que tu as. Mais oui, après, tu auras toujours des personnes qui, malgré tout, je pense, bah, voudront être salariés, et ça leur va, en fait.
Ouais, voilà. Bien sûr. Non, après, il y a salarié à vouloir monter les échelons, et puis il y a juste à avoir son boulot, et puis le boulot, il fait complètement partie de... Enfin, c'est une partie très annexe de ta vie. Nous, on essaie d'un peu tout équilibrer, mais c'est vrai qu'il y a des gens... Ils vont au travail et puis ils rentrent et puis
ouais,
voilà,
c'est ça.
Hein,
et ça leur c'est ça. Et moi, j'ai rien contre ça, hein. Mais c'est juste que ouais, enfin, et je trouve ça dommage, parce que je pense qu'il y en a qui se sont gâchés comme ça, notamment, je pense, tu m'entends, Thibaut, c'est bon?
Ouais, je t'entends, hein.
Ouais, ça. Et notamment, je pense à tu vois, j'ai un pote de collège qui s'appelait Vincent, et le gars était super bon en foot. Et tout le monde lui disait qu'il allait faire carrière, parce qu'il était vraiment très bon. Et ses parents étaient alcooliques. Et donc, du coup, il est tombé dans l'alcool. Et du coup, il a flingué sa carrière, tu vois. Malheureusement, franchement, malheureusement, c'est très triste. Mais parce que son entourage était mauvais, et tu vois. Et c'est tellement dommage, en fait, ce genre de choses. Et tu vois, il aurait suffi peut-être d'une personne lui dire « t'es, voilà, t'es une machine, faut que tu continues, tu peux percer dans le foot. » Ça se trouve, il y aurait eu un gars comme ça qui l'aurait pris sous son aile, et il aurait pu faire un truc de dingue, tu vois. Enfin, et tu vois, enfin, je dis pas que je veux être cette personne-là, hein, mais si j'arrive à et je fais pas du tout, enfin voilà, ça fait 4 ans que j'entreprends, j'ai encore énormément de choses à apprendre, mais si j'arrive à donner envie à un plus jeune, à un apprenti qui vient travailler avec moi, et lui dire voilà, t'es bon là-dedans et tu peux et demain je t'en voudrais même pas si tu sors, enfin si tu pars et si tu veux créer ta boîte, bah fais-le, tu vois. Je vais pas avoir cette mentalité de le garder et d'avoir comment dire, d'avoir, tu vois, c'est
la main mise sur lui et l'emprise, ouais, et voilà. Tu te dis ouais, c'est un super bon élément, faut que je le garde.
Ouais. Ça. Enfin, bien sûr que si, il faut que tu le gardes, mais après, tu essaies de faire évoluer en interne, enfin, tu essaies plein de choses, mais,
oui, oui.
Mais
je pense, bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le statut de patron va pas à tout le monde, mais après, on essaie quand même.
Ah ben non.
Je pense que dans la vie, enfin, en tout cas, le bonheur de beaucoup de gens, il vient quand même dans la progression. Et c'est ça qui est un peu.
Bien sûr. Et puis, ouais, comme tu dis, le statut d'entrepreneur, c'est pas fait pour tout le monde, hein. Tu peux essayer. Il y en a qui vont être faits pour travailler en freelance. Tu vois, il y a plusieurs sortes d'entrepreneurs. Il y en a qui sont faits pour travailler en freelance, d'autres pour faire des grosses boîtes, d'autres plus investisseurs. Enfin, il y a plein de trucs. Mais oui, c'est pas fait pour tout le monde. Ça, c'est sûr.
Et gérer des gens encore moins.
Et gérer des gens encore moins.
Ouais.
Ouais, c'est clair. Il y en a, tu leur dis salarié, ils ont des boutons.
Ah.
Ouais. Non, moi, ça va, franchement, pour l'instant, ça me plaît.
Bien. Voilà. Ouais. C'est ça, de toute façon, dans la vie, ça va vite, et encore surtout à notre époque, hein, on change de vie de plusieurs fois et tout ça, donc
ouais.
C'est très intéressant. Ok, franchement, on a fait déjà un bon tour, un bon podcast.
Ouais.
Allez, pour finir, tu as un petit loisir dont je voulais vite parler. Vas-y.
Vas-y, dis-moi, enfin, l'avion, tu veux dire ?
L'avion, ouais.
Ah ouais, l'avion, ouais. L'avion, c'est pareil, c'est un truc, j'ai toujours rêvé de ça depuis que j'étais gamin. Mes parents habitaient à côté de l'aérodrome, donc je voyais les avions qui passaient au-dessus de la maison de mes parents déjà quand j'avais 5-6 ans, et pour moi, c'était un avion, tu sais, tu vois ça, tu te dis...
C'est un truc magique, même moi qui prends encore souvent l'avion, le gros, c'est quand même un truc magique. C'est
impressionnant.
Tu te dis comment, enfin, tout le truc, et que t'es à un endroit où il pleut, Et oui, ouais. 5 degrés. Et quelques ça, heures après, t'es au paradis.
C'est ça, pour moi, c'est ouf quand même, tu vois. Et encore une fois, tout dépend dans lequel entourage t'es. Toi, tu peux regarder l'avion et être un gamin, tu te dire, je veux être pilote. Il y a toujours un qui va te dire, ouais, mais non, jamais de la vie, tu seras pas pilote. Il faut faire, je sais pas combien d'années d'études et machin, un truc. Et bref, voilà, après.
Et comment tu t'es lancé? Comment? Parce que justement, toi, t'avais pas d'entourage d'avion, c'est ça, en fait, hein? Enfin, de pilote ou de.
Oh non, pas du tout. Non, non, pas du tout. Et donc, si tu veux, je voyais toujours cet aérodrome, il était à côté de chez moi, hein, enfin, à côté de chez mes parents, vraiment à 500 mètres, quoi. Et donc, si tu veux, l'année dernière, bah, ça date vraiment de l'année dernière, hein, avril dernier, je vais me promener à côté parce que t'as un espèce de petit chemin dans les bois où tu peux te promener. Je m'arrête et du coup, voilà, je demande des renseignements. Et puis, bah, les gars me disent, bah, voilà, bah, tu peux venir essayer une fois, tu viens à côté du pilote, tu vois si un petit peu l'atmosphère te plaît, si t'as pas le mal de l'air et tout ça.
Mmh. Là, et donc, c'est pas la même chose qu'un avion pressurisé, ouais, quoi.
Ah ouais, non, ouais. Mais c'est clair, tu mets un casque, t'enlèves ton casque, t'es sourd. Hein. Et c'est un ULM, hein, pour info. T'as l'ULM et puis t'as l'avion, mais ça fait quand même du bruit à l'intérieur. Et donc voilà, donc je suis revenu, je crois 2 semaines après, je revenais. Et puis bah, là, je fais ma première initiation, et puis voilà, bah, là, c'est pareil, c'est comme le reste. Hein. Soit t'es piqué, et là tu continues, ou soit bah tu flippes et c'est pas fait pour toi, voilà. Donc et là voilà, moi j'ai été pris directement dans le truc. Je me rappelle même que je suis monté à côté du gars et du pilote, bah Steve d'ailleurs aussi, qui est un entrepreneur, un gros entrepreneur même, et qui lui, bah en fait, c'est, il est, enfin, juste pour info, une petite parenthèse, il a 4 grosses boîtes qui tournent et qui font, oui, il a 150 salariés en tout. Et il passe sa semaine à faire de l'avion. Enfin, il fait que ça. Et donc, il me regarde, il me voit sourire pendant qu'on volait. Il me dit, c'est bon, t'es mort. en gros, il me dit, bah, c'est bon, tu vas continuer, quoi. Et en fait, c'est les pilotes, les instructeurs qui t'apprennent à voler, ils regardent ça parce que, bah, voilà, c'est eux qui, ils sont responsables du brevet qu'ils vont te délivrer. C'est-à-dire que si quand t'as ton brevet, ils te lâchent tout seul à piloter, et qu'il t'arrive quelque chose, ils peuvent être responsables. Donc ils font très attention à qui ils délivrent ça. Et puis voilà, bref, ça a commencé comme ça, et aujourd'hui je suis à 17 heures de vol, et environ à 25 heures, et ben j'espère mon brevet, et je pourrai voler tout seul dans toute la France.
Ok. Voilà. Et tu peux nous dire combien ça coûte? C'est cher sans être cher.
Ouais, c'est 3. Tu comptes pour passer ton brevet toutes les heures de vol. Toutes les heures de vol, bah, ça comprend la location de la machine et puis l'essence et tout ça. Tu comptes à peu près 3500 balles.
Oh bah. Et après, louer l'avion, ça va encore, hein, de ce que j'ai pu voir. Enfin... Ouais.
Tu peux louer un avion à 100 euros de l'heure.
Ouais,
mais par exemple, tu vois, je situe, hein, moi j'habite au centre de la France, pour aller à La Rochelle, si tu veux aller à la mer, tu mets 1h30, mais tu payes juste les heures que tu as, à partir du moment où tu as tourné la clé de l'avion, au moment où tu as arrêté les clés. Donc si tu y vas et que tu reviens le lendemain, ben, tu payes 3 heures d'avion, quoi, en gros.
Ouais. Ouais, parce que les avions, ça s'use en heures, surtout.
C'est ça, ça s'use en heures, c'est beaucoup d'entretien, il faut très bien l'entretenir. Faut très bien l'entretenir, et puis ça coûte cher, un avion. Ouais. Parce que c'est quand même, tu vois, si tu veux un bon ULM pour voyager avec, c'est au moins 5000 balles, tu vois.
Ouais, les avions, c'est cher, et puis en plus, ils en font pas des, c'est pas comme les tableaux de bord chez Peugeot, quoi. S'ils font 3 millions de voitures avec, tu peux amortir le développement sur 3 millions de voitures, quoi, alors que les avions.
Ouais. Après, tu peux l'acheter en société. Tu peux l'acheter en société et le passer en société.
L'amortissement en charge, ok.
C'est tout à fait possible.
Ça roule. Tout à fait possible. Voilà, Faker, prospecteur, chasseur, avionneur. Bah écoute, ça m'a fait très plaisir de t'avoir et puis de recommuniquer avec toi. Merci beaucoup pour ton temps. 22h07, je pense que c'est l'heure qu'on arrête de travailler. Hein. J'ai une longue journée, et toi aussi, visiblement. Yes. Si on veut te contacter, Faker Alab sur les réseaux, c'est ça? Faker.alab?
Packer.lab.
Avec deux L.
Avec deux L, ouais, c'est ça. Okay. Voilà, sur Instagram. Sur Instagram, si vous êtes intéressé par le clé en main, allez voir directement sur la page oikos.imo. Et si vous êtes intéressé pour faire des travaux dans toute la France, allez voir la page facili.t. Ça, c'est la boîte de travaux.
Comment s'écrit F-A-C-I-L-I.
F-A-C-I-L-I.t. Voilà.
OK.
Et donc, voilà, si vous avez besoin de tout ça, et puis voilà, au plaisir de vous retrouver dans des soirées IMO, des séminaires. Avec grand plaisir pour plus parler entrepreneuriat. Moi, j'ai plus le profil entrepreneur qu'investisseur immobilier. Je parle beaucoup plus d'entrepreneuriat que d'IMO. C'est ça qui me passionne le plus aujourd'hui. Donc voilà.
Eh ben top. Merci Faker. Je te souhaite une très bonne soirée. À très bientôt.
Merci à toi, Thibaut. Ciao, ciao.
Et voilà, on arrive au terme de cet épisode XXL dans la durée, dans le contenu. J'espère qu'il vous aura plu. Comme toujours, pensez à partager, partagez en story. Vous avez des livres à gagner et vous aurez tout mon plus grand respect, bien entendu. Ou alors, vous pouvez mettre un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Si c'est sur Apple Podcast, je le lirai dans un prochain épisode. Merci à tous. Faites des gros billets et à très bientôt. Et félicitations à ceux qui ont chopé des tickets pour le week-end by Baby Patron. Et il y en a peut-être encore. Allez checker. Lien dans la description. Et s'il n'y a pas ce que vous voulez, info@babelpatron.net ou info@clubinvest.fr. On essaiera de s'occuper de vous.